mesdames et messieurs, c'est le commandant de Rigi qui vous parle. Auditeur de Radio FMR, service mondial, merci de nous écouter sur le flux Oxorbis. Notre programme va être relayé en 89.1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à midi pile, temps commun européen. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran en haut à droite par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de presque 0 degré, nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Dans l'attente de nos émissions normales...
Non, pas aujourd'hui, je suis désolé, mais l'heure est vraiment extrêmement grave. Je crois qu'on ne peut pas commencer comme ça par la gaudriole, comme d'habitude, en y allant, on va s'éclater, on va vous parler de choses qui nous éclatent et tout ça. Non. Je crois que là, le moment est peut-être choisi, le support aussi, puisque aussi bien le flux stream en Oxorbis que le podcast que j'anime sur mon propre site. Non, je crois qu'il est temps peut-être de parler de ce qui se trame en ce moment et qui est gravissime. Le 20 décembre passera en lecture unique et en urgence devant le Parlement la loi DADVSI, droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information. Elle est à l'initiative de Vivendi Universal, de la SACEM, du BSA, un consortium, en fait un lobby qui réunit des éditeurs logiciels comme Microsoft et Apple, et d'autres industriels. C'est une lecture tout répressive de la directive européenne EUCD, qui est déjà considérée comme étant pas très très libérale. Cette loi met en péril la liberté même d'expression. Elle veut interdire la possibilité de copier pour un usage privé toute œuvre légalement acquise. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus acheter un CD et le transférer sur son baladeur. Si vous voulez le transférer sur votre baladeur, il faudra racheter le morceau sur un site de vente en ligne. D'utiliser des fichiers non protégés, par exemple pour faire connaître son groupe et le mettre en ligne sur son propre site web. Ou diffuser une radio en stream, par exemple, comme Radio FMR. Elle vous interdira désormais d'enregistrer des émissions diffusées à la radio ou à la télévision. Pourquoi ? On vous refusera par exemple d'enregistrer un film qui passe à la télé ou un concert qui passe à la radio. Ou de choisir librement son équipement et ses logiciels. Non, vous n'aurez plus le droit d'avoir le choix finalement entre Windows, Linux, Mac, etc. Non, vous aurez le droit qu'entre Windows et Mac. Elle ne vous accorde que deux droits, acheter et acheter. Elle ne défend pas des artistes, elle ne défend pas des entreprises culturelles, elle ne défend pas la création européenne, elle ne défend pas le consommateur. Elle ne sert qu'à légitimer les abus de pouvoir de très grands groupes industriels. Ce qui est quand même gravissime. À partir de là, en plus de mettre à mort la copie privée qui est quand même autorisée jusqu'ici dans la loi, en plus de mettre à mort l'interopérabilité qui est autorisée, qui vous permet de lire un DVD sur votre ordinateur avec le logiciel que vous voulez ou sur la platine que vous voulez, en conservant la redevance associée à la copie, c'est-à-dire chaque fois qu'on achète un CD vierge, même quand il s'agit de mettre sur un DVD vierge un film qu'on a produit, tu te rends compte tous les films que tu as produits, Thomas, qui sont ta création, les DVD vierges que tu as achetés, tu as pratiquement payé 2 euros de taxes dessus pour la copie privée, alors que quand même, c'est ton œuvre que tu as mis dessus.
Ouais.
Le projet de loi DADVSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, prévoit jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour le simple fait de lire un DVD avec un logiciel non autorisé par l'éditeur du DVD. C'est-à-dire que moi, le fait que je prenne un DVD quelconque, que je le lise sur ma machine qui est sous Linux...
Même si tu l'as acheté.
Ou par exemple que ça soit édité par EMI, mais que EMI est en vis-vis avec Sony et que je le lise sur une platine Sony, le simple fait de l'acheter, mais de le lire sur un lecteur qui n'autorise pas, paf, direct. Un tel acte est assimilé dans le projet de loi à un délit de contrefaçon. Cela revient à dire qu'un éditeur de livres peut imposer une marque de lunettes pour lire ses livres qu'il fait imprimer. C'est-à-dire, par exemple, Afloulou devient éditeur, achète un groupe comme, par exemple, je ne sais pas, J'ai lu, et disent « Ah, mais si vous lisez des bouquins J'ai lu en poche, vous n'avez plus le droit de les lire avec d'autres lunettes que les lunettes Afloulou. » C'est quand même gravissime. Tout lecteur qui se permettrait de lire ses livres avec des lunettes d'une autre marque serait considéré comme pirate. 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison ferme. Non mais attendez, moi je suis artiste, je relève du droit voisin, je relève aussi du droit d'auteur, mes écrits, soit je les protège ou non, tout simplement la propriété intellectuelle, soit je les mets librement sur le net. Dans une licence qui s'appelle la Creative Commons, ce que la SACEM refuse du moins de ses sociétaires. Et d'un autre côté, comme client, je suis aussi désormais considéré comme un criminel qu'il faut lobotomiser par une camisole électronique. Mais merde, mais on n'attire pas un public avec une matraque. Vous imaginez, là, on est à une semaine de Noël et on vous attend avec une matraque en vous disant « Venez, bande de délinquants, venez dépenser les sous, mais surtout ne lisez pas ce que vous allez acheter. » Non mais il y a un souci. La crise du disque et du cinéma, est-ce qu'elle vient pas un peu de là? C'est qu'en fait, on n'a pas su bien comprendre ce qui se passait et que au lieu d'essayer de s'ouvrir, on a tout fait pour se refermer. Moi, je pense à partir de là que il faut arrêter ça absolument. Moi, de toute façon, cette année, il n'y aura aucun CD, aucun DVD que je vais acheter. C'est très clair. D'habitude, je me lâche. Et ben là, cette année, il n'y aura rien. Mais il y a une manière beaucoup plus efficace de contrer la loi DADVSI. Ce week-end, allez sur le net et signez la pétition. Vous ouvrez un navigateur et vous tapez eucd.info. C'est vos droits, votre liberté, nos loisirs, notre culture à tous qu'il faut sauver. Eucd.info. Et en prévision de son adoption, eh ben, c'est un peu difficile, mais voilà, nous allons enterrer la diffusion sur Internet de l'émission Supplément Week-end, qui deviendrait par le fait, par cette loi, vous rendez compte, ça deviendrait illégal. Malgré les accords qu'on a signés, malgré l'exception sur la copie privée, sur lequel je joue quand même hein, pour maintenir ce podcast, qui est une émission de radio à la base, et ben voilà, je suis obligé d'arrêter pour une période non déterminée et de l'enterrer. Donc voilà, donc je sais, ça n'est pas évident. Voilà, ni fleurs ni couronne. Et puis voilà.
Chers amis, chers web auditeurs, je pense que vous comprenez pourquoi l'émotion de...
Oui, excusez Xavier, c'est... il est en train de craquer là. Tu peux aller prendre l'air si tu veux. 4 degrés.
Non, on va la tenir cette émission dans la joie, la bonne humeur. Je sais pas, je pense qu'il faut vraiment à partir de là que je trouve un moyen de repartir. Donc n'hésitez pas, signez la pétition eucd.info et...
Et faites un beau geste.
Voilà, ça vous coûte rien. Et puis je pense que c'est vraiment c'est l'avenir, c'est ce que sera la culture qui restera. On a le choix, soit on restera uniquement à regarder des blockbusters et les majors ont le droit de savoir ce que vous faites de votre carte bleue. Et voilà.
Sinon, là, j'ai.
Il ne s'agit pas de piratage.
Si j'ai bien compris, là, j'ai tout faux pour aujourd'hui, puisqu'il y a une chronique sur deux blockbusters et une chronique sur les DVD de Noël.
On va la tourner à notre manière.
Ouais. Tu vas pas me censurer quand même.
Non, moi je suis pas. Non, loin de là. Bon, je sais, c'est difficile, mais
bon, ça va.
Et puis bon, je vais essayer de me réconforter comme je peux.
Petite musique peut-être.
Petite musique, ouais. Fred Rabol, ouais, comme ça. Ouais, ça ira beaucoup mieux.
chop, chip chop.
Radio éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 17 décembre, il fait bonder dans les magasins et vous écoutez la radio. Salut Thomas.
Salut Xavier.
Ouais, il est de retour. Comme tous les samedis FMR, ouvre avec les magazines, supplément week-end, BD, cinéma, DVD, télé, puis le cahier du sport. Bon, 15h, le cahier du sport à mon avis.
On verra quand il arrive.
Bon, 15h en mode progression, 16h Big Bang, 17h Vie d'ordure, 19h Happy Hour, 20h Last Hétéro, expérience avec DJ Pro et quand c'est trop, c'est trop picot. C'est nul. 21h Traffic with Sky, 23h à 3h du matin avec Payo SKS, de la Jungle, la Breakbeat Experience et tout ça c'est jusqu'à 5h du matin. Et allez sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net si vous voulez que cette radio continue. Il y a une pétition à signer, c'est maintenant ou jamais, c'est pour vos droits. C'est pas que la radio, c'est aussi la manière de vivre la culture.
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Et sinon, vous allez directement sur le site en question eucd.info, on vous donnera toutes les informations. Hein ? Non ? J'en fais pas un peu trop ?
Non.
Bon, alors on y va. Supplément week-end, c'est parti ! Et vous allez voir, on a beaucoup de choses.
An effort and play it like Doodle wants to. Get on with the marching here.
He didn't stand that tree, just a munching clover.
Caballero,
he didn't stand that tree, just a munching clover.
Caballero,
he didn't stand that tree, just a munching clover.
Caballero,
he didn't stand that tree, just a munching clover.
Before that.
Oh, it was a lookout. He sighted land.
Thomas, tu me pommes le Lex Libris dans Gorn, je t'explose, je te démonte, je te...
Hein? Non, je l'avais pas vu.
Ah bah oui, bah c'est ça, oui, ils disent tout ça.
Ah ouais,
cool.
Bon, eh ben, oui, ben, Gorn, parce que tout simplement, on a une grosse section BD, il y a une grosse partie revue de presse, il y a du cinéma,
il y a que
du...
des grosses parties aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais. En plus, on a commencé l'émission un peu avant l'antenne, mais ça, pour le savoir, eh ben, vous irez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, et vous aurez tous les détails et tout le bazar. Et on a même pas fait le chrono, tiens, tu vois. Là, jusqu'à 12h05, on a passé Sporto Contes, Impressed. Et puis ensuite, attends, parce que là je le fais en direct la grille. Alors la revue de presse, on va dire jusqu'à 20, la bande dessinée jusqu'à 40, cinéma jusqu'à 45, DVD jusqu'à 52.
Oui, c'est ça. Oui.
Et une interruption musicale jusqu'à 56 et oh, on va dire 4 minutes pour du sport. Non, mais je crois qu'il va falloir on va déborder jusqu'à 14h. On va essayer de pas déborder jusqu'à 14h hein.
Sinon, ouais,
sinon du sport va vraiment nous démonter la tronche. Allez, on y va, Thomas. C'est Allez. Un plaisir, tu es de retour.
Ouais, avec plein de revues de presse en pagaille. Avec si on commençait par première, numéro 346, toujours 2€, le numéro de décembre avec en couverture. Eh ben, c'est Harry Potter, évidemment. Harry Potter et la Coupe de Feu qui est sorti.
Un film Warner à regarder sur une platine Warner.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On a un gros dossier, évidemment, sur Harry Potter avec une interview très, 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 très express des acteurs. Genre, minimum 3 questions, c'est les presse junkets.
et comment vous faites? Vous avez un contrat avec Biactol pour tourner sans en bouton d'acné?
C'était comment travailler avec machin? Oh, c'était tellement génial. Ah ouais, et votre partenaire là, il est bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Oh, merci, merci. Et sinon, on a un gros dossier sur le cinéma d'animation en France, à l'occasion de la sortie de Kirikou et
Bâturage. Alors là, il y a quelque chose à dire quand même sur Kirikou, c'est que là, on a tous loué le travail du réalisateur.
Michel Ossolo, oui.
Voilà, mais on a des témoignages comme quoi c'est un fiefé connard. Un putain d'enculé de sa race et... Non, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le macaron en bas à droite. Ouais, je vais me faire démonter par Dominique, un bodice.
Je crois que tu en avais déjà parlé dans une précédente chronique. Ouais. Et donc, ouais, il y a à travers les témoignages de Michel Ossolo, justement, Jean-François Laguioni, c'est l'occasion de parler de la frilosité des financiers en France qui font passer confiance aux films d'animation Made in France. Et l'absence de structure et de modèle d'animation à différence des USA ou du Japon, ce que disaient certains réalisateurs interviewés.
Attention, au Japon, c'est surtout des petits studios et.
Oui, non, moi je veux dire, il y avait certains réalisateurs qui témoignaient, qui disaient que, justement, les films japonais, on voit bien qu'il y a une identité quand même qui est propre à ce pays, une identité propre aux films d'animation américains, alors qu'en France, tu as l'impression que c'est un peu du n'importe quoi, il y a des identités, beaucoup d'identités différentes, et t'as pas vraiment d'unité en fait, c'est ça qui
me dit. C'est vrai que ça manque un peu de pâte, mais bon.
Enfin bon, il y a quelques grosses sorties d'animation qui sont dites dans le magazine, et je vous invite à aller voir quelques images extraites de ces films, il y en a certains qui valent le détour. Voilà, donc ça c'était première, 2€ au mois de décembre, moi en kiosque avec Harry Potter en couverture. On passe au suivant avec le magazine Score. Et quoi en couverture? C'est l'autre
des trucs fluo orange, ça fait peur.
Non, c'est rouge fluo si on peut. C'est King Kong.
Ah, c'était ça le décapsuleur, j'avais pas reconnu.
Voilà, c'est numéro 15 à 3€. Et donc effectivement, évidemment, un dossier sur le film King Kong avec des portraits des acteurs, des biographies, l'interview d'un psychiatre pour analyser le mythe de la Belle et la Bête avec ce gros singe géant qui est tout gentil en fait. Portrait de Peter Jackson qui est devenu
énorme pénis. Pardon.
Portrait de Peter Jackson qui est devenu avec ce film le réalisateur le mieux payé au monde avec 20 millions de dollars.
Ah ouais, quand même. Ouais. Et ben ça le change quand même de.
Je sais pas si vous l'avez vu à la télé d'ailleurs, il s'est fait opérer les yeux au laser pour se débarrasser de ses lunettes. C'est-à-dire que Exit, le petit hobbit binoclard de Seigneur des Anneaux, et en plus il t'a fait une putain de perte de poids. Là, il est méconnaissable. Je sais pas si tu l'as vu à la télé toi.
Non, mais à mon avis, ça doit être le barbecue du mouton j'ai oublié le nom du film. Le premier film cheap qu'il avait fait.
C'était quoi, Braindead?
Ouais. ça change quand même. Voilà.
Et voilà. Et l'autre intérêt de ce numéro de Score, c'est les 100 previews pour 2006, les images exclusives des 100 films les plus attendus pour 2006. Il y a le nouveau Spielberg, Munich, Superman Reborns, X-Men 3, Silent Hill, Ghost Rider, V pour Vendetta, The Departed, le nouveau film
V pour Vendetta, un bon film kafkaïen là qui me rappelle ce que va devenir la culture bientôt.
Ouais. Donc c'est un dossier de 100 preview pour 2006 qui me permettra de faire une grosse chronique à la rentrée d'ailleurs pour parler des sorties de l'année. Ah bah tiens, ensuite Je sais que du sport, on avait déjà parlé il y a quelques émissions. Ouais. Il s'agit de Mad Asia, c'est un dérivé de Mad Movies consacré au cinéma asiatique, c'est le numéro 1. Donc c'est un bimestriel, donc il sortira tous les deux mois. Et en couverture, évidemment, c'est le film Seven Swords of Tsoyark. Alors moi, je suis vachement déçu parce qu'il n'est pas resté très longtemps à Toulouse. Hein. Alors je ne suis pas allé voir à l'Utopia, par contre. Et je sais qu'à tous les Gaumont, UGC, tout, il n'y est plus, ça y est. Et donc voilà, bon, alors ce qu'il faut savoir sur Mad Asia, c'est que bon, ça s'adresse quand même à ceux qui ont déjà un pied dans la culture asiatique, hein, qui savent les grands noms, qui savent dissocier le cinéma hongkongais, le cinéma japonais, le cinéma chinois continental, le cinéma coréen, etc. Mais c'est quand même une bonne occasion pour redécouvrir certaines filmographies, certains films très connus. Et bon, alors c'est quand même des articles de spécialistes, hein, il faut s'accrocher un petit peu.
Tu peux me dire s'il y a un Jérôme Lagnoux dedans j'ai oublié son nom.
Voilà. Et on a aussi, je crois qu'il y a, je sais pas si Alex Masson qui fait un article, enfin bon, bref. Et il y a donc dedans, on a une interview de Park Chan-wook à l'occasion de la sortie évidemment de Deadly Vengeance, qui est sorti le mois dernier. Un topo sur les derniers films de Shinya Tsukamoto, un cinéaste super intéressant qui avait signé Les Deux Tetsuo. Avec Xavier, Les Deux Tetsuo, que je t'avais prêté il y a pendant un an et que tu m'as rendu pour cause de déménagement là bientôt. Voilà, donc il y a aussi un dossier sur Cachern. Voilà, donc c'est Mad Asia.
Cachern, peut-on regarder un film sans sous-titres en VO et
sur un lecteur qui plante pas, c'est mieux. Et donc alors Mad Asia numéro 1, c'est
il faut 5... des lunettes de soleil pour Cachern, hein, voilà. Vous êtes prévenus.
C'est 5,90€. Ensuite, hors série de Studio Magazine, on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, mais là c'est tout. Si vous voulez tout savoir sur Harry Potter, tout sur Harry, donc Studio Magazine consacré hors série qui coûte 5,50€ à Harry Potter. Voilà, il y a des affiches inédites en cadeau, des hologrammes, c'est à la fois pour les enfants et pour ceux qui désirent s'intéresser un peu plus aux hommes et aux femmes qui sont derrière les films, genre en portrait de J.K. Rowling, etc. Mmh. C'est intéressant, c'est ce qui fait le charme des Studio Magazine en général, c'est que ce sont des articles à base d'anecdotes qui essaient de prolonger la magie du cinéma, mais sans jamais être gnangnan ou cucu. Moi j'aime bien la patte, bon, c'est vite lu, mais voilà, si vous êtes un gros fan d'Harry Potter, c'est à posséder d'urgence.
Faudra un jour faire un top 5 des magazines cinéma.
Et puis enfin, on quitte le cinéma. C'est un magazine qui date du mois dernier, mais je voulais en parler quand même. C'est Bulldozer, nouveau magazine. C'est le numéro 3, celui de novembre 2005. Il est un peu cher, il fait 6,50€. Et en couverture, c'est Le Chat de Philippe Gueluc, avec où justement le dessinateur belge se livre un petit peu dans le magazine à travers un abécédaire. Il s'explique un peu sur sa carrière, ses débuts, ses passages multiples chez Michel Drucker.
Oh, avant Michel Drucker, il y avait la RTBF.
Évidemment, il était acteur de théâtre.
Le jeu du dictionnaire. Il a une carrière qui est absolument monstrueuse.
Voilà,
ce gars,
il en parle aussi. Et il y a aussi une énorme interview de Marini. Avec des nombreuses esquisses et des carnets et des crobards d'origine qui lui ont servi à élaborer le style visuel du scorpion, de rapace, etc. Voilà, donc Bulldozer.
Marini, en plus, c'est un dessinateur qui fait de la SF, qui fait donc de la bande dessinée aussi en costume, c'est-à-dire un peu historique.
Ouais.
Il a vraiment une palette, une gamme qui est monstrueuse. Et vraiment à découvrir d'ailleurs pour ça. Et puis en plus, Non, je dirais rien. Ça concerne un peu les vies privées.
Voilà, et puis...
Non, pas les soirées d'Angoulême.
Voilà, donc il s'agit de Bulldozer, c'est 6,50€ et il s'agit d'un mensuel. Le nouveau numéro doit être arrivé. Celui-là, c'était celui du mois de novembre.
Animeland.
Salut du sport.
Salut Dus. Animeland vient de sortir, c'est le numéro 117. On avait dit qu'il faisait un virage beaucoup plus japonisant sur l'animation, puisqu'il y a un peu moins de place pour la bande dessinée internationale.
l'animation.
Pour l'animation internationale, et c'est bien dommage à mon sens. Mais néanmoins, on trouvera à la couverture Blood. Donc il y a une nouvelle version de Blood qui vient de sortir. L'animation en OAV était pas trop mal, mais j'étais pas convaincu. Et donc là, il s'agit de la série télé. On attend de voir ce que cela donne. Des dossiers sur Pompoko qui... arrêtez de vous échanger les revues là.
Ouais, ça va, fais ta chronique.
Pompoko donc de Takahata qui date de 93, si je me trompe. Une animation qui est très marrante, vraiment pour enfants, et qui parle d'écologie. Qui parle en fait d'écologie tout simplement parce qu'il s'agit d'animaux, des tanuki, c'est-à-dire des animaux de la mythologie japonaise qui ont le pouvoir de se transformer, tout comme les oni et les renards, mais qui sont beaucoup plus bénéfiques. et dont un promoteur décide tout simplement de raser leur bosquet pour faire un superbe immeuble de rapport. Enfin, vous voyez le style. Et là, on les voit dans des transformations grotesques. C'est assez étonnant, puisqu'on oscille dans l'animation entre un dessin qui est très réaliste, où ces animaux sont très bien dessinés, avec d'un côté une animation qui est plus japonaise, voire complètement cartoon. Et c'est assez délirant. Et d'ailleurs, je me souviens que dans l'édition Laserdisc japonaise, au début, il y avait un conteur traditionnel. C'est un peu une sorte de stand-up comédie à la japonaise, c'est-à-dire qu'il est en tenue traditionnelle, en kimono. Et là, si, il vous raconte des histoires pour enfants. Et il y a vraiment cette atmosphère de mélange, je vais dire, entre la modernité et le traditionnel. Et là, le traditionnel qui combat contre la modernité. Il y a aussi un autre dossier sur Jules Verne, adapté dans le dessin animé japonais. Il faut savoir que on est dans l'année du centenaire Jules Verne, c'est la fin là, mais surtout que Jules Verne a été énormément adapté en dessin animé au cinéma, aussi bien par Hollywood dans les années 50 et évidemment donc par les japonais. Et c'est un peu cette vision là qui est intéressante. Il y a une interview de Kurumada. Alors ouais. Thomas il vient de mettre son polo, mais dessous je peux vous dire qu'il a son t-shirt super moche des Chevaliers du Zodiac. Il me l'a piqué, cet enfoiré, l'Animeland.
Ah oui, l'Animeland, pas le t-shirt.
Kyoko Karasuma, dont j'ai parlé la semaine dernière, et dont ils disent que c'est le Buffy à la japonaise. Allez voir la chronique sur le site internet de l'émission. Vous allez sur www.radio-fmr.net pour savoir un peu ce dont j'en ai parlé, aussi bien parlé à l'antenne que mes notes de direct. Et désormais, il y a un DVD avec des nouveautés. Monster, c'est donc cette espèce de polar où un médecin japonais est dans l'Allemagne réunifié, où il se retrouve à poursuivre un criminel, un tueur en série, absolument froid et souriant, qui a été plus ou moins dressé, si je puis dire, par la Stasi. C'est très glaçant et le manga était énorme. On attend de voir ce que donnera le dessin animé, mais moi, j'aurais plutôt préféré une série... une série live produite par les Allemands. Là, je pense que ça aurait été encore plus fort. Il y a aussi Beck, qui est donc l'histoire d'un étudiant japonais qui rencontre un guitariste américain. Et Beck, évidemment, c'est en rapport avec le Zikos. Dears et Over... j'arrive plus à me relire. Overman King Gainer en animation. Mais bon, ça, on en reparlera bien après. Midi et 17 minutes. Promis du sport, on va essayer de ne pas dépasser 14h cette fois-ci. Hein. C'est une horreur. Vous écoutez Radio FMR, c'est Supplément Week-end. On entame sur les BD direct. Avec une BD, ma foi, quand on a rencontré l'un des deux auteurs, on en était littéralement fan. Enfin, moi, je l'ai rencontrée à l'époque où elle faisait encore du fanzina. On a fait une interview, elle était encore toute étonnée qu'on en fasse une interview. Il y avait... un très célèbre scénariste de la bande dessinée française, Jean-David Morvan, qui m'a dit toi aussi tu l'as rencontré, elle a une carrière, pour elle c'est tout ouvert, c'est énorme. François Duprat et Vanida, ils co-signent le scénario et le dessin. Ça s'appelle L'année du dragon, c'est un triptyque, donc le troisième tome vient d'arriver, il clôture donc cette série. Il s'appelle Kim, c'est dans Urban Collection aux éditions Carabas. Et c'est l'histoire de l'année chinoise où Franck, il a 25 ans, il est étudiant, il a un travail depuis agriculteur, et il est censé tout réussir. Enfin, du moins, c'est ce que lui a prédit son ex, Kim, qui travaille dans le restaurant Thaï de ses parents. Hélas, les relations entre Franck et son frère ne sont pas au mieux. Le père de Franck se meurt d'un cancer. Son livre pour enfants, il n'arrive vraiment pas à le continuer. Et sa relation avec Bernadette bat de l'aile, surtout depuis que Kim, son ex, est revenu sur l'île. Bref, c'est pas tant que ça l'année de son totem. Et en plus de ses problèmes familiaux, il est enferré dans un triangle amoureux qui n'arrange pas du tout son moral. Bon, allez, l'année du dragon, on aime, on en est fan, parce que c'est de la nouvelle manga, telle que le définit Frédéric Boilet, et Vanida, elle était étonnée qu'on la mette dans cette étiquette, elle connaissait absolument pas. Mais sans intention d'être de la moindre école, quoi, parce que, après tout, ce qu'elle raconte, c'est juste du quotidien avec un dessin qui est style manga, mais pas tant que ça. Ça n'a rien d'extraordinaire. La manière dont c'est fichu, ben, ça touche au cœur le lecteur en jouant tout en finesse avec nos sentiments et comment on peut juger les personnages. Mais surtout pour l'extrême gentillesse et simplicité de Vanida, qui mérite bien quand même cette reconnaissance quand on l'a rencontrée à Angoulême cette année.
Oui, oui, en plus on a diffusé l'interview d'ailleurs. Ouais, très...
Elle est très simple finalement, oui, elle est vraiment serviable et tout. Et puis
si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, il y a des petites pages à la fin de l'album où c'est relaté sous forme de petites cases de BD l'aventure de la fabrication de cette série.
Et c'est voilà. Donc voilà. Donc on apprécie énormément François Duprat et Vanida, l'année du dragon, tome 3, Kim, chez Urban Collection aux éditions Carabas. C'est vraiment c'est du sentimental, tout doux, tout mignon, avec un dessin européen manganisé. Et voilà, c'est absolument magnifique. Donc ça tombe bien, vous pouvez acheter les trois d'un coup. Et puis voilà. L'offrir à votre sœur qui est fan de Friends et des Feux de l'amour et après leur piquer en tous. Puis voilà. On continue avec Tiburce Auger. Tiburce Auger, moi, c'est l'un des rares auteurs où je lui ai dit directement que une de ses séries n'était pas du tout à son niveau et c'était bien dommage. Et il m'a dit ah ben, ça me fait plaisir parce que c'est un peu ce que je pensais et t'es le premier à me le dire. Donc pour ça, c'est total respect parce qu'il est vraiment à l'écoute. Faut pas croire, hein, quand on va voir un dessinateur dans une dédicace ou une interview, faut pas hésiter à s'ouvrir à lui sur son œuvre. Pas être le fan exclusivement BA, des fois
ça les intéresse. Tu peux aller dédicacer ton album et leur dire c'est de la merde, des fois ils apprécient.
Non, ça j'hésite quand même. Tiburce Auger, donc le 10e tome de Gorn, Les yeux de brume, viennent de sortir chez Vent d'Ouest. Tiburce Auger, c'est l'un des plus beaux dessinateurs de médiéval fantastique. Par exemple, dans la collection Delcourt Jeunesse, il a fait un superbe Aurule, le faiseur de nuages, où c'est l'histoire en fait d'une espèce de géant qui est adopté par des nains cultivateurs. Il se trouve que ces géants, c'est lui qui peut sauver leur vallée de la sécheresse en soufflant des nuages. C'était vraiment très 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 beau. Et vraiment, l'album avait fait tomber des dizaines de mâchoires autour de moi par sa poésie. Sauf que Gorn, la série fétiche de Tiburce Auger, c'est une série d'amour chevaleresque, tendance gothique. Un humain et une elfe s'aimaient d'amour tendre, mais moururent tous les deux. Ils s'aimèrent par-delà leur propre mort et promirent de revenir en fantôme pour veiller sur leurs deux filles. Mais si Héloïse devint une belle guerrière, Maëlle, malheureusement, fut enrôlée dans la secte des prêtresses de Rivas. Pour pouvoir les attaquer, le soutien même modeste du peuple nain, des mythiques elfes que les humains n'avaient plus vus depuis des siècles et aussi des mânes des morts ne sera pas de trop. Surtout que tous ces peuples sont très éprouvés par leur lutte contre les yeux rouges. Et donc, Héloïse va essayer de sauver Maëlle en faisant l'assaut final contre la forteresse. Attention, très sympathique, l'album est scellé dans une enveloppe. Serez-vous le premier à le lire ? Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est on achète le bouquin, on l'a dans une enveloppe scellée. Et dedans, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un ex libris qui est de toute beauté, là, que j'ai laissé d'ailleurs.
Ouais, j'ai vu, ouais.
Et franchement, c'est agréable. Tiburce Auger, Gorn, tome 10, Les yeux de brume, c'est chez Vent d'Ouest. Et c'est vraiment excellent. On commence avec les mangas et figurez-vous que là, ça a été littéralement l'invasion. En plus, là, on fait presque un effort vraiment d'ouverture, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on a plein d'éditeurs différents, là, on stocke, enfin, c'est une horreur. On va commencer par Mineo Maya, Patariro, Le Voyage en Occident. Le tome 1 et 2 est sorti dans la collection Shonen de Gelu BD, c'est-à-dire pour ado. Le tome 3 devrait arriver, ce sera une édition qui arrivera en parution hebdo mensuelle, excusez-moi. Et l'histoire, eh ben, ça se passe sur la montagne au centre du monde. Un jour tombe la foudre d'une puissance énorme, si terrible qu'elle brisa le roc, en sortit un œuf de diamant et en acquit un humain, dur comme l'acier, avec une queue de singe. Avec un événement pareil, le palais céleste des dieux bouddhiques aurait dû se bouger. Mais les dieux préférèrent ignorer l'événement, le panthéon, le Bouddha. Non, c'est déplorable, d'accord. Il fut élevé par une tribu de singes qui le firent roi, d'où son nom de Son Goku. Naïf mais espiègle, il décida d'apprendre la sagesse auprès d'un humain immortel. Malgré sa totale candeur, il apprit à une vitesse phénoménale des tours comme le bâton de combat et utilisa un nuage comme un skateboard et que...
Oui, bon, ça va, on dirait Dragon Ball, là. Le bâton, les singes, la queue de singe, bon, ça va.
Ah oui, mais attends. C'est normal parce que Toriyama, Akira Toriyama, le dessinateur Dragon Ball, ben, il s'était inspiré d'une vieille légende chinoise, cette espèce d'empaffé, hein, une légende qui est connue comme le monde. Alors là, c'est normal que la trame soit exactement identique dans Patariro, le voyage en Occident. Bon, la différence, c'est une quantité phénoménale de jeux de mots dans les dialogues et une référence à la culture japonaise immédiate. On plaint le traducteur, il ne sait plus où mettre ses notes et il dit bon alors ça c'est en fait un groupe de J-pop et c'est un jeu de mots sur tel truc etc. Donc évidemment il est littéralement paumé. Non, il n'y a pas que ça. Il y a surtout un graphisme très étonnant qui est proche des estampes chinoises et des dessins hindous. C'est assez étonnant. En fait, faut carrément s'accrocher quand on est habitué aux mangas de baston pour accepter cette œuvre délirante. En tout cas, c'est une découverte. Et moi, franchement, j'ai adoré. Je me suis régalé, quoi. Donc voilà, la nuit de jeudi à vendredi, voilà, je l'ai passé à la lire. Patariro, Le Voyage en Occident, tome 1 et 2. C'est dans la collection Shonen chez J'ai Lu. C'est de Mineo Maya. On continue avec Natsumi Mukai, Anima. Le premier tome vient de sortir chez Young Taifu. Enfin, c'est une collection de Taifu Comics qui s'adresse aux gamins et c'est tout à fait normal. Alors, normalement, si je montre la couverture à Thomas... Tiens, Thomas, la couve. 5, 4, 3, ouais. 2...
On dirait Rey dans le fond, là. Evangelion, non?
Ouais. Sauf que...
Ouais, on dirait qu'il a pas les yeux rouges.
Bon, bah voilà, hop, voilà. Et que ce n'est pas une fille, mais presque, puisque dans le cirque, on l'a fait passer pour une sirène déguisée en princesse. Bon, l'histoire, c'est celle d'un garçon qui tombe du ciel chez des paysans. Ce garçon, s'il tombe du ciel, c'est parce qu'il a deux ailes noires dans le dos. Non, c'est pas un ange déchu, Evangelion, encore une fois, mais un anima, une chimère homme-animal. Kuro, c'est le nom de ce garçon, est élevé en humain. Un jour, il trouvera dans un cirque, en guise de monstre de foire, un autre anima comme lui, une fille poisson, une sirène. Et c'est en voulant la libérer qu'il découvre que Husky est en fait un anima comme lui. D'ailleurs, c'est marrant, il donne des noms de chiens, là, Husky. Et qui travaille pour faire la bête de foire, mais bon, pour des clopinettes. Finalement, ils s'évaderont tous les deux du cirque, histoire de trouver d'autres animas comme eux. Bon, allez, c'est charmant, c'est mignon. La dessinatrice fait un travail soigné, bien foutu et assez enfantin, mais bon, c'est pour un public de collège. En tout cas, c'est frais, c'est rigolo, mais ça pète pas très très loin. Natsumi Mukai, c'est la dessinatrice de Anima, donc le premier tome vient de sortir chez Young, chez Taifu Comics dans la collection Young. Ouais, on ne lit pas Young, c'est pour l'acteur, mais Young.
J'ai rien compris.
Bah, c'est Y-O-U-N-G, mais ça se prononce Yang, comme dans Ying et Yang.
Yang.
Voilà.
D'accord.
Oui, non, mais que vous croyez, là, on est une émission éducative aussi, des fois, on vous apprend l'anglais.
T'as raison, c'est bien l'enchaînement pour le prochain manga.
Ouais. Morishige, monsieur est servi. Oh non.
Oh non, je viens de la comprendre. Ah, l'enfoiré.
Monsieur est servi, le quatrième tome vient de sortir dans la collection Eiichi Taifu, Eiichi Taifu Comics. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon collégien qui se retrouve héritier de son grand-père qui a un gigantesque manoir avec plein de petites soubrettes, manière 19e, vous voyez, la tenue. Oui monsieur, hop, la révérence et tout le reste. Ah oui monsieur, on fera le moindre de vos désirs. Donc c'est juste pour vous dire que la première moitié tourne au manga de sport avec du baseball, puis on a un entraînement militaire et enfin quelques scènes à la demande générale de fan service, c'est-à-dire des plans sur les petites culottes des filles. C'est-à-dire on voit un peu, parce que certaines, elles ont des tenues différentes suivant le service où elles sont. C'est-à-dire soit elles sont garde rapprochée de monsieur, soit elles sont au service d'ordre avec une la robe taille minimum pour faire battle dress et tout ça. Enfin bon.
Oui, sachant que c'est moi qui avais chroniqué les trois premiers tomes, et puis c'est vrai que je te l'ai passé parce que j'étais vachement déçu. C'est soft finalement.
C'est soft, très soft. Peut-être qu'il y a plus, je n'en sais rien. Dans le DVD qui est édité par IDE, qui est donc chez le. Qui est en fait un même actionnariat que Taifu. Enfin bon, on verra ça. Donc chez Taifu, Echi, Monsieur est servi, tome 4 de Morishige. Et puis voilà. Thomas, t'as quelque chose à expédier rapidement ?
Oui. Le tome 11 de Go and Go, la série sur le baseball, toujours édité chez Taifu Comics, la collection Shonen. Et c'est un manga de Takao Koyano, c'est le tome 11. Et puis bon, il n'y a rien à dire dessus, c'est juste de l'entraînement de baseball comme d'habitude, avec certains mouvements qui sont pas mal rendus. Mais bon, là, l'histoire est absolument inintéressante, enfin à mon goût.
Bon, alors moi j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est du sport va avoir du mal. Attendez, là c'est énorme. J'ai fait un pari stupide, c'était le meilleur l'un des animateurs les plus vifs dans la programmation, c'est vraiment notre John Peel à nous. C'est aussi bien sur le rock que sur le rap où il passe ses dernières nouveautés rap et il vous donne l'histoire du rock. Et moi je le fais chroniquer quoi.
Une BD.
Ah oui, mais pas n'importe quoi.
Non, attends. Mais d'abord, je voulais te moucher parce que j'ai entendu avant que j'arrive que tu parlais de Peter. Vous parliez de Peter Jackson. Alors moi, j'ai vu, c'est vrai qu'il est transformé, il a maigri et tout, c'est incroyable. Hein, vraiment, on est habillé, on est habitué au bon petit gros nounours,
ouais,
tranquille,
avec les
sympa.
Lunettes, ouais.
Enfin voilà quoi. Mais bon là, vraiment, c'est vrai que maintenant il fait jeune beau presque. Hein, carrément quoi, genre tu vois.
Ouais, c'est plus jeune étudiant en cinéma.
Et en tout cas, c'est pas lui qui a fait Brain Dead. Il a fait Evil Dead.
Non.
Oh non.
Non, Sam Raimi, Brain Dead.
Et
je pense à Bad Taste aussi.
Voilà.
Oui,
voilà.
Mais c'était
The Feebles.
Mais c'était Bad Taste en fait, où ils font des barbecues au lance-roquettes sur les moutons.
Voilà. Entre autres. C'est normal, ça se passe en Nouvelle-Zélande.
Mais Sam Raimi, il est néo-zélandais lui aussi.
Non, pas du tout. Rien à voir. Allez, alors là, c'est, en plus, c'est un monument, c'est quand même, c'est du lourd. Je l'ai pas mis sur la balance, mais ça doit faire dans ces 4-5 kilos, hein, tranquille. Hein. Il y a pas le poids qui est marqué.
560 pages, non, il y a pas le poids sur la fiche technique.
Ouais, non, mais attends, c'est du gros format, hein, c'est le format BD hein, quand même, quoi. Et il s'agit de quoi ? De Vent d'Ouest, hein, tu disais avant que, bon, bah, on squattait un petit peu avec les mêmes maisons d'édition. C'est le cas avec Vent d'Ouest, puisque bon, bah, c'est Vent d'Ouest qui propose le meilleur de Bibi Fricotin.
C'est pas énorme ça. Alors, je fais chroniquer Bibi Fricotin. On
applaudit. Attention. Parce qu'il s'agit pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas du tout Bibi Fricotin, parce que ça s'est arrêté quand même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans les années 80, fin des années 80, ouais. 88, est sorti le 110e album de la série des Bibi Fricotin. C'est pas des conneries. Bibi Fricotin qui est un personnage dont je pourrais dire qui a bercé ma jeunesse et tout, mais enfin bon, un type qui a 20, 30, 40, 50 ans de plus que moi pourrait dire exactement la même chose, vu que c'est une BD qui est née en avril 1924.
Je suis sûr que je le montre à mon père, mon père va pleurer, et si je le montre à mon grand-père, il va me dire mais c'est gentil d'avoir pensé à ton Noël.
Ton grand-père peut-être pas, ton papa certainement. Alors c'est pas d'avril, c'est octobre, hein, parce que en fait c'est une bande dessinée qui est née à l'initiative d'un monsieur, un grand monsieur de la bande dessinée d'avant-guerre et de la bande dessinée tout court, Louis Forton, qui à l'époque nous avait déjà gratifié des pieds nickelés qui marchaient du feu de Dieu, hein, c'était ça paraissait dans un journal qui s'appelait Les Battants. Et Forton, bon, qui avait quand même quelques petits problèmes personnels, on va dire, parce qu'il aimait bien jouer aux courses, il aimait bien boire, donc il fallait pas mal de pognon. Et donc, il s'est dit bon ben je prends un petit peu d'écart avec les pieds nickelés et tout. On l'a quand même un petit peu poussé pour qu'il sorte quelque chose d'autre. Et il a proposé donc Bibi Fricotin. Bibi Frigotin, qui tout de suite eh bien, se laisse accaparer par d'autres dessinateurs. Hein, c'est pas Fourton qui garde le petit bébé, lui il a juste instillé.
Et puis Fourton, je crois qu'à l'époque il était beaucoup plus intéressé finalement par la caricature puisqu'il avait travaillé pour l'équipe. Hein.
Absolument, hein, qui s'appelait pas l'équipe à l'époque.
C'était l'auto,
hein.
C'était
l'auto. Hein. Ouais. Puisque c'est entre les deux guerres, hein, là on est dans les années 20. Et donc c'est d'autres dessinateurs qui s'en chargent, d'autres dessinateurs et scénaristes, dont celui qu'on connaît le mieux en fait, hein, c'est dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Raymond Maric.
Exact.
Hein, qui a il a pratiquement fait tous les bouquins, hein, tous les bouquins de Bibi Frigotin depuis le début, les textes, c'est-à-dire scénario et tout ça. Et le dessin, au départ, était le dessin d'Ouli Forton avec ces bandes dessinées très caractéristiques, hein, du début du siècle, hein, où il y a très peu de bulles, hein, les bulles, il y a juste des interjections à l'intérieur et il y a du texte sous les cases qui permet de suivre l'action.
C'est pour une,
hein, c'était ni texte ni bande dessinée, quoi.
C'était éducatif parce qu'on considérait que ça les bulles ça n'allait pas inciter à la lecture, voilà, les gamins, là, donc il faut qu'ils lisent.
Voilà, là il y avait de la lecture et tout,
avec un décalage assez énorme d'ailleurs entre le contenu des bulles et ce qui était marqué dans le texte.
Tu vois bien un petit peu le topo là, quoi.
Les Mickey aussi à l'époque, hein,
tout premiers Mickey, et en fait
on les réécrivait en France. Dessous.
Et en fait, cette bande dessinée, donc Bibi Frigotin, a continué au fur et à mesure, était publiée dans des histoires à suivre. Et ensuite, on les ramenait dans des éditions cartonnées, hein, pour avoir le bouquin complet. Il y a eu pas mal de dessinateurs quand même qui s'y sont frottés, on peut dire, hein, au fur et à mesure des décennies. Et le gros problème, en fait, c'est que au bout d'un moment, Bibi Frigotin a dû évoluer. Et cette évolution, il l'a faite en fonction d'une concurrence qui naissait et qui allait l'emporter à fond les manettes. J'ai bien entendu parler de Tintin. La ligne claire de Hergé, la forme de mise en case, les bulles qui prennent les phylactères qui prennent toute la place. Il n'y a pratiquement plus de texte. Si, il y a encore un petit peu de texte, toujours un encart, tu sais, dans le coin en haut à gauche, en haut à droite, ouais, pour situer un petit peu narratif. Mmh. Mais ok, voilà, on a évolué la bande dessinée, la bande dessinée européenne, française, belge a évolué, a fait un bond en avant incroyable. Et les patrons des dessinateurs de Bibi Frigotin disent ok, quoi, bon bah c'est fini le texte en dessous maintenant, ok, il faut adopter un petit peu le style de Tintin. Et ce qui fait que en fait Bibi Frigotin, qui au départ était un petit peu novateur. Ça raconte quand même l'histoire d'un petit gamin qui est un petit peu débrouillard. Au départ, c'est un aide, il est lad dans lad, c'est-à-dire non, il travaille dans les écuries, hein, garçon d'écurie, voilà, c'est ça, quoi, le terme en français. Bon, un monde que Fourton connaissait bien, lui qui était habitué aux champs de course. Et au fur et à mesure de l'histoire, on lui adjoint quelques petits, un petit copain, collègue, comme ça. Alors bon, bah ok, il est black, il s'appelle Razibus Zouzou. Hein, et au départ, dans les premières histoires, bon, bah ok, hein, à l'époque, quand on lit ce bouquin, c'est ça qui est assez intéressant. On retourne en arrière et on retrouve un petit peu l'ambiance, on va dire colonialiste, on va pas dire raciste, mais colonialiste qui existait, hein, parce que là, hein, je lis texte, hein, Bibi et son nouvel ami, le nègre coco, tu vois, enfin bon, ok, hein, tout y passe, y a pas de problème.
C'est encore bien, le bon sauvage.
Le bon sauvage, voilà, bien dans le colonialisme.
Faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des expos colonialistes et tout ça. Hein,
absolument.
C'est pour ça que l'amendement est d'ailleurs si décrié en ce moment, c'est que ça en revient à ça, quoi.
Voilà, donc tout ça sur cet album de Bibi Frigotin qui, pour ce meilleur de Bibi Frigotin, ne rassemble pas, on va dire, un panorama exhaustif de l'ensemble de l'œuvre de Bibi Frigotin, c'est-à-dire qui part des débuts, qui va pratiquement jusqu'au plus récent. Ce sont des œuvres qui sont tirées des bandes dessinées parues, on va dire, de début 40, des années 40, 50, 60. Et un petit peu après, hein, les BD du début, hein, qui sont si typiques, ont été un petit peu oubliés. Si on les a un petit peu en exergue au départ du bouquin pour un petit peu expliquer l'historique de Bibi Frigotin. Sinon, bon, je vais dire c'est du lourd, hein, c'est paru chez Vent d'Ouest, le meilleur de Bibi Frigotin. Et j'ai pas compté, mais je crois qu'il y a bien 5 ou 6 albums en fait qui sont reliés à l'intérieur de cet énorme pavé. Tiens, tu peux y aller. Ouais, merci.
Ah ouais, mais moi je le reprends
pas. C'est pour tout
pas.
Le monde, hein, c'est ça, hein, c'est d'histoire, ouais. C'est pour les gamins, il y a pas de problème.
Hein, ah oui, ça fera plaisir à Sabrina.
Et il y a eu Bibi Fricotin, il y a eu Tintin, donc qui ont inspiré après beaucoup de bandes, énormément de bandes dessinées avec des gamins qui étaient les héros de leur histoire et de leurs aventures.
Bibi Fricotin, le meilleur de Bibi Fricotin intégral entre guillemets, donc surtout de Pierre Lacroix, c'est Henri Filippini qui a fait la compilation. C'est du bon, c'est du lourd.
Bah ouais.
Et puis voilà, Thomas, t'avais peut-être encore une BD à
massacrer.
Ça,
c'est un bon cadeau de Noël, tu vois, quoi.
Ah ouais, familial.
Ça, c'est un cadeau de Noël bien, quoi, cool.
Et puis surtout, on n'aura pas de problème avec la loi si on le lit avec d'autres lunettes que celles de l'imprimeur. Et encore, on n'est pas sûr. Bon, on rappellera après.
Oui, moi, j'avais plus de BD, moi, mais par.
Si, tu avais une sortie annoncée rapide.
Ah bon? C'était quoi? Non, le baseball, je te signale que j'en ai parlé tout à l'heure.
Ah, pardon. Bon, d'accord, alors ok.
Il a dit que c'était inintéressant, c'est pour ça que bon.
Voilà, c'était juste avant Bibi Fricotin. Mais où est-ce que t'étais, toi, pendant l'émission?
À la régie, comme d'hab. C'est... Non, parce qu'une fois, on a fait une émission quand même, j'étais entre deux régies, donc celle-là, on me la refait plus. Vas-y pour le cinéma.
Ah, ouais, attends, petite pause avant. Hein.
Bon, d'accord, ok. Radio FMR 12, midi 40. Les infos donc sur ce qui nous préoccupe, www.radio-fmr.net ou sinon directement aller signer la pétition eucd.info. eucd.info dans votre navigateur. Thomas, je te laisse la place.
Et j'ai pas de jingle cinéma aujourd'hui.
D'accord, ok. Excusez-moi.
Mais,
oui,
mais
oui.
La version longue, hein, pas la petite merde que t'as foutu la dernière fois.
D'accord, ok. On y va! Qu'est-ce que je ferais pas pour qu'il reste? Bientôt, il va falloir passer le test DTS ou le THX, je sais pas.
Allez, ben, si on parlait de cinéma un petit peu avec un petit film indépendant là, fait par un réalisateur tchèque, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, c'est le quatrième tome d'Harry Potter. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus, ce qui n'a pas été dit? Donc, c'est un film de Mac Newell, qui avait réalisé 80 un jeune enterrement, Donnie Brasco, Les Aiguilleurs, Le Sourire de Mona Lisa. Donc, on peut souligner l'éclectisme du bonhomme. Alors, j'ai passé sous silence le casting parce que bon, on les connaît à force, hein. La grande nouveauté de cet épisode, c'est, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, parce que bon, pour ceux qui auraient vécu en Laponie et qui sauraient pas l'univers de Harry Potter, c'est qu'à chaque tome en fait il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Alors soit le précédent a été niqué parce que c'était un méchant, ou alors il était viré pour incompétence et tout. Et là cette fois c'est un mec ancien mange-mort, c'est-à-dire ancien méchant à la solde de Lord Voldemort, et qui a fait croupir en prison beaucoup d'enculés en fait. Et il s'agit de Maugrey Folleuil, à qui manque un œil, et il a une espèce de bandeau qui tient un faux œil qui sert de longue vue. Et il est incarné évidemment par Brendan Gleeson, un acteur avec une bonne bouille assez ronde, hein, qui avait incarné, je crois, dans un film John Boorman, un activiste irlandais, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Et enfin bon, bref.
Le général.
Voilà. Ah bravo. Ah, merci. Et donc dans ce tome-là, enfin dans ce nouveau film, pardon, qu'est-ce qu'on a ? Ben on a, il se passe qu'il y a un grand tournoi inter-école de magie, de sorcellerie qui oppose des écoles de Bulgarie, de France et de d'écoles de Poudlard, et qui a lieu à Poudlard, parce que c'est choisi, il a été choisi pour être le lieu de ces joutes.
À domicile.
Extrêmement dangereux.
Voilà, le réception à domicile face à des équipes quand même qui ont des entraîneurs couillus. Un du sport cette année.
Il faut se méfier des Bulgares.
Ils ont bien progressé. Alors, ce tournoi est extrêmement dangereux, tellement dangereux qu'il il est interdit à tout étudiant de Poudlard qui ne soit pas minimum 6e année. Et comme Harry Potter est en 4e année, normalement, il n'a pas le droit de participer au tournoi, sauf que...
Ah, c'est les... encore le problème de la gymnaste japonaise qui, à 15 ans, ne peut pas participer aux Jeux Olympiques.
Et du surclassement des effectifs.
Voilà, donc en fait, les espoirs, ils n'ont pas le droit de participer à ce tournoi. Et mais donc chaque candidat va mettre son petit bulletin de candidature dans la coupe de feu. Et la coupe de feu va recracher les noms des heureux élus, sauf qu'elle recrache le nom de Harry Potter. Ah, bizarre. Mais normalement, il n'a pas le droit d'y participer. Et puis, il va être accusé par tout le monde de tricherie. Tout le monde va le regarder d'un sale œil, même ses collègues de l'école. Et Harry Potter, il va devoir effectivement participer malgré lui à ce tournoi super dangereux qui verra l'affrontement contre des dragons, des défis sous-marins, des labyrinthes infernaux, etc. Mais il n'y a pas que ça dans ce film qui est bourré d'action. Il y a aussi c'est l'épisode où il y a les élèves qui commencent à avoir les hormones en ébullition parce qu'ils commencent à grandir. Et puis voilà, il va falloir qu'ils se trouvent des cavalières pour le grand bal du tournoi, etc. Et ça va être oh tiens, tu voudrais pas danser avec moi? Oh non, je suis déjà prise par l'autre. Oh mais je suis jaloux. Voilà.
Attends, tu veux dire qu'on a une petite alerte Spice Girl de Derek Fago? On va arrêter là.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? Enfin, qu'est-ce que j'en ai retenu? Moi, c'était une grande richesse visuelle. Alors, comme d'habitude, les effets spéciaux ou même les effets mécaniques, c'est une combinaison d'effets numériques et mécaniques. Il y a rien à redire. Il y a rien qui fasse cheap. Il y a rien qui fasse fadasse ni rien. Bon, là, c'est nickel.
Enfin, ils arrivent quand même à y mettre une ambiance qui est assez anglaise. C'est ça qui est étonnant.
Voilà. Hein. Au niveau de l'ambiance, au niveau du rendu, des pouvoirs et tout, c'est franchement. C'est béton. Le bémol, c'est que effectivement, ce tome-là, c'était le tome le plus dense de toute la série. Et tellement dense qu'il y avait des rumeurs sur le net qui disaient ouais, ils vont pas pouvoir en faire un film parce que faut savoir que le précédent film, il faisait 2h10, je crois, ou 2h20, 2h10, pour un tome qui faisait la moitié du tome 4. Et ils ont dit bon alors voilà, il va falloir faire 4h40 de film, il va falloir faire deux parties. Ben pas du tout, ce qu'ils ont fait, ils ont tout compressé. C'est-à-dire qu'il y a l'essence, la moelle du tome est retranscrit à l'écran, sauf qu'ils ont, les scènes sont super courtes et on voit vraiment qu'ils veulent aller à l'essentiel dans chaque action, et c'est ça qui est un peu dommage. Ils laissent pas respirer certaines scènes, et c'est ce qui fait qu'à mon avis tu peux pas revenir du film en disant ouais, dans le tome 4 il y avait telle scène qui était inoubliable. Non, c'était un bon film, mais voilà, c'est le tome. Ses défauts, en général, dans tous les Harry Potter, c'est que c'est plutôt l'histoire qui te prend et c'est pas vraiment des scènes cinématographiques. C'est pas, il suffit de lire le roman et puis voilà, c'est ça que je trouve un peu dommage. Il y a beaucoup d'infos secondaires qui sont les sources au second plan, comme la biographie de certains personnages. T'as là certains élèves, tu sais même pas de quelle famille, parce qu'il faut savoir que dans l'école de Poudlard, il y a 4 familles de sorciers. Il y a Gryffondor, Serpentard, Serdaigle, les Beaufsouffles. Et ce qui est très important pour chaque... Ouais, j'étais briefé par Sabrina. Et donc, il y a certains, tu sais même pas de quelle maison ils appartiennent. Alors voilà, on sait pas trop.
Et gaffe, parce qu'on est écouté par Philippe Frézière, notre président à tous, et c'est un énorme fan aussi de
Harry Potter.
De Harry Potter, oui.
Voilà, ben il y a le passé de leur famille qui on en prend pas plus dans le film. Donc c'est des petites infos qui sont croustillantes et qu'on n'a pas dans le film. C'est dommage. Et ben ça, c'est pour ceux qui ont lu le bouquin avant. Et puis je finirai aussi par comparer cette saga à une autre saga qui est sortie quasiment en même temps. Hein, jusque bon là, c'est fini. C'était Le Seigneur des Anneaux. Et là, franchement, le travail d'adaptation de Peter Jackson, c'était d'une autre tenue, parce que effectivement, le gros défaut d'Harry Potter, c'est qu'il s'adresse à des enfants. Et les enfants, ben, ils, on leur dit, tiens, il faut qu'ils fassent, faut pas qu'ils fassent plus de 2h30. Alors déjà, ça leur fait faire une séance de plus dans le cinéma. Et en plus, ça permet de capter l'attention des enfants jusqu'au bout. Si c'est 3h, forcément, les enfants, ils en ont un peu marre à la fin. Et c'est ça le gros défaut, c'est la tare qui est, dès le postulat de départ. C'est pas un défaut des réalisateurs ni rien, c'est le postulat de départ. Et c'est ça qui faisait un peu la qualité du Seigneur des Anneaux par rapport à la saga des Harry Potter, c'est que ils pouvaient se permettre de faire des films de 3h15 dans les versions longues, ça faisait 4h, et ils pouvaient balancer toutes les infos du bouquin et garder la richesse de tiens, si tu me fais changer un petit peu le fond sonore, que je te planter un peu de l'ambiance. Voilà, donc voilà, par rapport au Seigneur des Anneaux, tu pouvais te dire, il y a certaines scènes inoubliables, il y a le gouffre de Helm qui était bien amené, t'avais les apparitions des cavaliers noirs parce qu'il se passait rien avant, tu vois, et dans Harry Potter, on n'a pas ça. Mais allez-y, c'est quand même d'un très très grand niveau.
Thomas, c'était très sympathique cette interruption musicale.
Ouais, c'était le. Oui.
Oui, 12h52 minutes, 57 voilà. secondes et 778 millièmes sur l'horloge atomique
c'est
de Radio FMR.
Musique là, parce que moi j'ai pas vu toujours le Seigneur des Anneaux.
Howard Shore.
Howard Shore, ouais. Voilà, voilà.
Compositeur de Cronenberg. Voilà, tu les as pas vus les Seigneurs des Anneaux toi ?
Non, non.
Ah. Ah ben,
tu non, non, on n'a plus le droit de se prêter les DVD entre
ah
nous.
Oui, oui, c'est vrai. Je
la loi DVSI nous l'interdit. Ah ouais, 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 ouais. C'est un massacre.
Voilà, donc c'est
enfin, moi, je le lis pas sur mon PC, quoi, de toute façon. Alors.
Bah oui, mais on n'aura même plus le droit de se les prêter entre nous, c'est ça. Enfin,
ah oui, c'est vrai qu'on peut se prêter les PC. Si on en... Ah mais non, on ne peut pas enregistrer. Bon, allez, tiens, si on passe à la suite. En matière de cinéma, bah, c'est pas innocent si on vous a passé un extrait de la BO de la Communauté de l'Anneau. C'est On va passer à King Kong, réalisé par le même réalisateur Peter Jackson.
Oui, quoi, ah, d'accord, ok. Non, j'ai rien dit. Cherchez le. Bon, d'accord, je suis allé trop loin.
Alors, là par contre, on peut parler du casting parce qu'il n'y a pas eu de King Kong 1, 2. Enfin, si, il y en a eu, mais. Pardon.
Attends, tu veux rire? Tu veux que je te les ressorte? Ouais, ils ont même passé Godzilla contre King Kong.
Oui, ouais, le fils de King Kong.
Il y a également King Kong Lives, le 2 là, qui est pas du tout connu quoi.
83. Ouais, ouais, qui a fait un flop monstrueux.
Ouais, flop monstrueux et tout. La suite du King Kong de Guillermin de 76. Où il devient gentil, sympa et tout, mais il y a quand même un mec qui le dégomme à la fin.
Comme Godzilla. Quoi, ouais, voilà, ouais. C'est pareil. King Kong, Godzilla, même combat, sauf qu'il y en a un qui a un souffle atomique et l'autre il l'a pas. Voilà, donc dans la demoiselle, le rôle de la demoiselle en détresse cette fois-ci, c'est Naomi Watts. Voilà, The Ring.
Belle blonde.
Le film de Lynch là, Mulholland Drive. Ouais, Belle blonde, ouais. Avec aussi.
Obligée pour une Screaming Girl.
Voilà.
Ouais, mais elle est brune dans le film, non?
Dans quoi? Dans King Kong? Ah non, elle est blonde.
Elle est blonde.
Ouais.
Ah,
non. Ouais, c'est parce qu'elle a toujours les cheveux mouillés, donc on dirait des fois qu'elle a les cheveux bruns. Et ensuite, Adrienne Brody, ça fait tout drôle de le voir après le pianiste.
Non, mais surtout, elle a tout le temps les cheveux mouillés, c'est que ça bave un gorille.
Oui. Voilà, on a aussi Jack Black. Dans le rôle du réalisateur.
Yeah, lui énorme. C'est un comique et un putain de rocker monstrueux. Il avait fait l'Académie du Rock'n'Roll d'ailleurs.
Rock Academy.
Très mauvaise traduction parce que c'est The Rock School en VO qui est hilarant en VO et c'est vrai que c'est un putain d'humoriste. Et là, quand on m'a dit il va faire le réalisateur,
ouais, ouais. Oh,
et ben, vu comment il est fou,
il est extraordinaire dans le film. Il s'est inspiré justement pour sa composition d'Orson Welles. Il est tout rond, on croit vraiment voir un clone d'Orson Welles, mais en plus il m'a vraiment épaté. Et ben, évidemment, on a aussi Andy Serkis qui est un peu la marque de fabrique de Peter Jackson maintenant, puisqu'avant d'être bardé de capteurs pour incarner Gollum, et là il incarne aussi King Kong et également un petit personnage qui est le cuisinier du bateau qui se bouchait d'ailleurs. Oh, tiens, j'ai spoilé pour le personnage, bon c'est pas grave, vous verrez ça
bravo.
Fait assez atroce d'ailleurs. Alors si je racontais l'histoire d'un petit singe, non bon. Non, de toute façon, là, tout le monde la connaît.
Non, on a déjà parlé de Son Goku tout à l'heure.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un remake de plusieurs versions, surtout de la première version, la version originale de 1933, qui avait été réalisée par... Alors je sais que les noms sont assez imprononçables. Allez-y.
Ernest Schoetzack et Marianne Cooper.
Ah bon. Facile. D'accord.
C'est facile.
Moi j'ai du mal, je me suis entraîné par mon petit déj ce matin. C'est Schoetzack.
En fait, c'est Ernest B. Schoetzack et Marion C. Cooper.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis? Je disais aussi en antenne parce que, bon, pour essayer de persuader du sport d'aller au cinéma, enfin, c'est que tout est énorme. Là, il n'y a pas de problème. Il faut accepter les films qui vont au premier degré à 150%, avec des grosses bêtes qui s'affrontent, des filles blondes qui arrivent au ralenti, parce que le singe l'attend dans les rues de New York et tout. Faut accepter tout ça. Faut pas dire, voilà, c'est, voilà. Il y a de la romance, de la baston, du merveilleux, tout est à fond. Et bon, et franchement, on en prend plein les mirettes. Il faut. À la fois, on en prend plein les mirettes, mais aussi, c'est quand même un film assez gore, hein, finalement. C'est super effrayant par mon. Un remake avec des. Vous voyez la scène de Arachné avec l'araignée géante dans Le Retour du Roi. Ben, vous oubliez ça. Ça, c'était pour les enfants. Vous prenez, il y a un passage où ils seront assaillis par des espèces des trucs tout gluants, des scorpions géants et tout. Et c'est.
Que du bonheur.
Voilà. Et alors faut aussi souligner certains passages qui frisent vraiment le génie d'après moi. C'est l'un de mes passages préférés, c'est quand ils arrivent sur l'île qui s'appelle l'île du crâne, Skull Island, où ils naviguent à vue dans la nuit, ils s'aperçoivent à la fin qu'il y a plein de rochers en forme de pointe qui sont de part et d'autre du bateau. Pour les claustrophobes et les gens qui ont peur du noir, n'y allez pas.
c'est un film
à la renverse,
un film qui quand même s'adresse pas aux gamins, etc., avec un je crois que c'est le quatrième budget d'Hollywood de tous les temps.
Alors je sais pas si c'est le quatrième budget, mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a eu, on en a pour son argent en tout cas. Et mais voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que le film, c'est pas le film romantique avec la fille qui arrive sur le toit de l'Empire State Building à la fin avec le singe. Ça passe vraiment par des combats avec des monstres géants. Jurassic Park, c'est aussi gore, sinon plus que Jurassic Park. C'est vraiment, c'est pas pour les gamins. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des aspects déviants de la... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, oui. Voilà, il y a des passages vraiment qui sont du pur film de Godzilla. Des fois, il y a King Kong qui essaie de protéger la belle blonde en changeant de main dans sa... Il est toute minuscule dans sa poigne, tout en affrontant une famille de dinosaures. Alors tu prends à lui crier « Ouais, vas-y, pète-leur la gueule à ces connards !» Ouais.
Je vois le Thomas d'ici dans la salle du multiplex en train de, en train de sauter sur son siège et d'hurler. Ouais,
ah ouais, mais c'est vraiment...
Je comprends pourquoi ta copse en ce moment, elle dit « Non, plus jamais au cinéma avec Thomas.
Hein, » Oh non. Toi, t'as vu Sabrina? Et voilà, bon, mais c'est tout ce que je voulais dire. C'est t'as des scènes avec le rendu numérique, c'était vraiment à tomber par terre. Tu en oublies vraiment que le singe n'existe pas. T'as les rendus des poils au gré du vent. T'as des passages qui te foutent le vertige. Le passage de l'Empire State Building à la fin, c'est. Il n'y a pas de mots pour le décrire, tu dis ouh là là là, ça fait haut. Et voilà, donc le film dure 3 heures. C'est. Quelques longueurs des fois, mais
émission aussi va durer longtemps.
Il faut accepter que certaines scènes s'étalent parce que c'est vraiment ce qui fait le charme du film. Et puis j'aurais qu'un mot à l'égard de Steven Spielberg. Oui, je sais, tu as dû te dire putain, c'est ça qu'il fallait faire pour Jurassic Park.
Là, ça, elle est cassée.
Voilà, bon, allez-y. Hein. Allez-y, non pas en famille. Allez-y ceux qui sont fans de films de monstres.
Et faut noter, mais enfin, c'est involontaire de sa part que Peter Jackson, il a voulu être vachement fidèle au film originel. Et il a situé la scène finale sur l'Empire State Building comme au départ.
Oui.
Alors que dans la version de Guillermo, c'est au World Trade Center.
Eh oui, c'est vrai.
Et là, bon, il pouvait plus le faire, quoi.
Ouais.
Vu qu'il y en avait plus tellement, quoi.
D'accord. C'est vrai.
On continue, Thomas, avec
avec rien du tout, puisque ah mais sinon oh là j'ai encore d'autres trucs merde.
Rien du tout.
Si on parlait un petit peu de DVD maintenant.
Ouais, on explique, hein, on a coupé les micros parce qu'en fait on a des visites des fois pendant l'émission, etc. Et donc c'était pour nous signaler donc un concert Koba Original. C'est mercredi 21. C'est à l'endroit, donc on en reparlera évidemment sur cette antenne sur Radio FMR DVD.
Alors ça n'a rien à voir avec ma chronique DVD de l'année dernière, hein, où il y avait les packs Seigneur des Anneaux, les packs Matrix en DVD, 12 DVD, Star Wars.
Ouais, à la fin on faisait le calcul du nombre de galettes.
Hein. Ouais, il y en avait 57 DVD. Alors là ça va être du soft, quoique j'ai commencé par un film qu'on avait déjà chroniqué sur cette antenne, en fait c'est Sin City. Alors vous avez vu ça fleure à Virgin à Fnac
dans les super-arts culturels quoi.
Voilà.
Vous savez, avec les vigiles qui vous attendent avec la matraque devant en disant et achetez-le mais ne le regardez pas sinon on vient vous frapper. Voilà.
Alors vous avez vu qu'il y avait plusieurs éditions DVD de Sin City. Bon alors vous avez la simple édition, celle qui est, ouais, Just City, mais bon, celle qui coûte 15€ là. Ensuite, vous avez l'édition collector avec plein de bonus. Et puis, vous avez l'édition collector limitée 3 DVD avec le gros packaging qui fait plus grand qu'un format A4. Avec inclus un livre, le CD de la BO, une affiche Shima et une lithographie à l'intérieur. C'est édité par Wellside, c'est déjà sorti, hein. Et dans les...
Oui, on a des vidéos de toi en train de saliver.
Et alors, faut savoir que le bouquin qui est dedans, c'est The Art of Sin City. C'est un bouquin avec tous les croquis préparatoires, les dessins. On voit l'évolution parce que c'est quand même un style assez finalisé sur certaines cases dessus de Frank Miller. Sur une case, bon, on voit que c'est léché par exemple quand il dessine les murs en ombre et tout. Mais par exemple, d'autres fois, c'est vraiment le coup de pinceau avec les taches blanches sur le fond noir. Et ça, ce bouquin permet justement d'apprécier tout son art. Alors, il faut savoir qu'il était déjà, il avait déjà été édité chez Rackham, ce bouquin. Alors, si vous le possédez, dommage.
Ah,
voilà. Donc, on va parler un petit peu quand même des suppléments pour en finir. Alors, on a la sorpitin des bandes annonces, on a le making of du documentaire, de la masterclass, on a une conférence de presse, on a 6 cartes postales, on a, je le disais tout à l'heure, le CD de la bande originale, on a un DVD qui s'appelle Comic Book Confidential, je pense que ça doit être sur la BD de Frank Miller à l'origine, et on a une affiche cinéma exclusive et inédite. Voilà, c'est pour Sin City qui est édité chez Wildside. Ensuite, on a encore du film testostéroné.
Parce que comme disait Lou Reed, Walk on the Wild Side.
Ah ouais, alors là, une fois de plus. Là, du sport, il s'est entraîné là pour cette émission. Il sait que c'est la dernière de l'année. Il s'est entraîné.
Et d'abord, on va passer par la Kung Fu Comédie avec Crazy Kung Fu de Stephen Chow, qu'on avait aussi chroniqué ici, d'ailleurs.
Sauf qu'eux, ils n'ont pas des trentenaires malades du genou. Non. Bon.
Donc voilà, Crazy Kung Fu, coffret disponible en coffret deluxe limité avec inclus le DVD simple, le book de photo collector plus deux photos signées par Stephen Chow. Vous allez me dire, ça fait un peu léger quand même. Et c'est quand même dans un package assez luxueux parce qu'il est tout argenté, ça fait plaisir. Bon, c'est pas moi j'ai préféré Shaolin Soccer quand même. Je sais pas, toi tu l'avais pas vu toi.
Crazy Kung Fu, du peu que j'avais vu, ça me semblait trop cartoon pour
ouais,
être bien.
Ouais, trop cartoon. Mmh. Et alors c'est déjà sorti et c'est édité par GCTHV. Alors vous allez me dire c'est quoi cet éditeur? C'est quoi Gaumont?
Ouais, mais ils sont spécialisés justement dans l'importation de films de Hong Kong. C'est un petit éditeur d'ailleurs qui s'est lancé dans les années 90.
C'est Crazy Kung Fu de Stephen Chow. On va passer maintenant avec un autre film qui est un peu plus vieux, qui est sorti en 1984. Et si je vous dis, moi j'ai foi en deux choses, ma parole et mon manche. L'une est en béton, l'autre est d'acier. Vous me dites l'important, c'est le manche.
Scarface.
Voilà.
Yeah.
Bravo. Scarface de Brian De Palma. Donc c'est la version
facile, j'ai le planning.
C'est pas le quel con, c'est vrai. C'est la version de Brian De Palma, l'édition collector limitée avec deux DVD inclus, un CD, un livre de 88 pages quand même. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, si c'est instructif, ça, je pense que ça doit valoir le détour. En même temps, le film a été tellement est tellement connu et je pense pas qu'il y ait encore des choses qu'on doit apprendre, mais bon, on sait jamais. Et il y a aussi une pince habillée en métal argenté à l'intérieur. Et c'est un DVD édité chez Universal.
Ne pas lire sur une platine DVD Sony.
Voilà, donc pour tous les jeunes issus de la culture hip-hop, allez-y, hein, c'est votre film culte après tout.
C'est clair que là-dessus, quoique il y a eu Chute Libre hein, qui a été repris en vidéoclip
avec Michael Douglas par This Is La Peste.
Par This Is La Peste, qui était pas mal, hein, à mon sens. Je pense que c'est largement plus intéressant de ce côté-là pour la culture hip-hop que justement Scarface. Mais c'est personnel.
Mais cela ne nous regarde pas.
Bon, d'accord.
On va passer aussi à d'autres films. Bon, ça, ils sont peut-être moins prestigieux, mais enfin bon, voilà, il y en a certains qui, même s'ils brillent pas par leur originalité ni par leur excellent niveau, on va dire, ils sont pas trop mauvais dans l'ensemble. C'est les films de produits par Luc Besson chez Europa. Avec, on va saluer quand même la sortie du coffret, simultané.
Pendant des années, Luc Besson a dit je ne veux pas de supplément dans mes DVD.
Voilà, c'est ça.
Et c'est oula, bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais oula, voilà. Ouf.
Bah, c'était pour promouvoir les sorties, les versions papier, avec ces fameux bouquins qui ont l'air des tomes de BD là, les dossiers de presse et les voilà, les bouquins
qui sont pas super complets d'ailleurs.
Pas complets, mais c'est un soin tout particulier à l'emballage qui a souligné quand même. Alors, il s'agit des Ultimate Editions en THX des films Europa. On a Banlieue 13. Alors
de la balle.
Dans le 13, j'avais failli le chroniquer en disant du mal, mais sans l'avoir vu, je mets un coup de pas, je l'ai pas fait finalement. Parce qu'il faut dire quand même que tout ce qu'on chronique ici, on l'a vu ou on l'a lu.
Quand même, ouais.
Ça dépend de pas mal d'autres. On ne se contente pas de belles feuilles, par exemple, pour chroniquer des BD. On se contente pas d'un dossier de presse pour chroniquer un film ou même pour en parler.
Voilà.
Voilà, on tient quand même à faire notre travail professionnellement sans être payé.
Et voilà, je reconnais que j'étais le premier à me foutre la gueule banlieue 13 avant de l'avoir vu. Et il faut reconnaître que
c'est de la balle.
Non, sans dire que c'est de la balle, les bastons ça tue. Voilà, c'est pas en général quand on engage des chorégraphes asiatiques pour faire des films en France.
Les bastons ça tue, ça me semble normal.
Oui, enfin bon, quand on engage des chorégraphes réputés pour venir faire des chorégraphies en France, on a tendance à mal filmer les chorégraphies. C'est juste pour dire ouais, on a eu un chorégraphe vachement connu qui est venu tourner avec nous, mais voilà, finalement au résultat c'est complètement naze. Et ben là non, c'est l'un des deux.
Il y a des poursuites qui sont pas mal. Hein. Faut dire que le mec il dépote quoi. Quand même David Bell là, le mec.
Oui, le mec de Yamakasi.
Voilà,
ouais.
Vraiment,
lui, David Bell et surtout l'autre qui est un peu plus dégarni, qui incarne le flic, qui c'est lui qui est le chorégraphe du film. Et on va dire qu'il y a des plans super larges qui mettent en valeur justement les chorégraphies, et c'est jamais cartoon, c'est jamais grotesque, et je reconnais que effectivement sur ce côté-là le film fait mouche. Ensuite, on va passer rapidement après sur le reste, et on a le baiser mortel du dragon qui est pas si mauvais. Avec Jet Li. Tu l'as vu toi ?
Oui. Ah, oui. Bah, franchement, je l'ai vu dans un avion et j'ai trouvé ça naze, j'ai zappé.
D'accord.
Il y avait les Teletubbies sur le canal 18.
Il y a la scène où il y a la boule de billard, là,
voilà,
le truc.
C'est ça que je pensais aussi, qui est pas mal. Oui.
Qui est pas mal, quoi. Oui. Mais franchement, bah, enfin, bon, c'est.
Oui, mais c'est maigre. Il y a Jet Li et c'est tout.
Ah, Checky Cario aussi qui finit comme dans Doberman d'ailleurs.
Ouais, Chiki carise à fond les manettes dans ce film, quoi.
Plus
on avance dans les baissons et dans les, il y a une Chiki carisation à fond les manettes de son personnage, de toute façon, quoi.
Voilà.
C'est dommage pour lui, quoi. C'est un bon mec, quoi, au départ, quoi.
On a aussi Danny the Dog, un autre Jet Li. On a Michel Vaillant, qui pour ma part c'était un peu raté malgré les belles images qu'il y avait.
Les chevaliers du ciel.
Ouais, pas encore. Et il y a Hong Bak aussi, qui sont en Ultimate Edition THX. Voilà.
Bon,
ensuite.
Century Round.
Ensuite, on a un coffret qui avait déjà été édité par une autre maison d'édition qui était HK. Et alors, du sport va peut-être savoir avant que j'en parle. Bon, Xavier, tais-toi, puisque t'as la feuille sous les yeux. Ce sont des films adaptés de manga de Sabre, qui sont
les baby cartes, non ?
Voilà.
Bravo ! Sauf que, on les connaît sous ce nom-là pour le film, mais la manga est traduite sous un autre nom internationalement. C'est Lone Wolf and Cub.
Lone Wolf and Cub, et il faut savoir aussi qu'il y avait un film qui était sorti aux États-Unis, qui avait distribué aux États-Unis, réunissant les deux premiers films, et qui s'appelait Shogun Assassin. Qui est vu par la fille de Uma Thurman à la fin de Kill Bill 2. Il dit ah, c'est quoi que tu veux voir ce soir, ma fille? C'est Shogun Assassin. Il dit oh non, quand même, il est un petit peu long. Parce que si on rit, c'est parce que
c'est putain de violent.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment super gore, avec des membres arrachés, des têtes coupées, des sangs qui giclent. Alors il y a 7 films qui sont Baby Cart, le sable de la vengeance, Dans la terre de l'ombre, L'âme d'un père, le cœur d'un fils, L'enfant massacre, Le territoire des démons et Le paradis blanc de l'enfer. Et cette fois, ce n'est plus édité chez HK, c'est édité chez Wildside Video. Alors tant pis pour ceux qui ont déjà l'édition HK, vous pouvez prendre l'autre pour les avoir en double et pour avoir un packaging différent. Les deux se valent. Donc dedans on a documentaires, des interviews, des galeries photos, et d'après ce que j'ai vu sur le net, les documentaires vaut quand même son pesant de cacahuètes.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de documentaire dans l'édition HK.
Alors, il n'y avait pas de documentaire, mais il y avait une présentation par un analyste de cinéma qui était assez intéressante.
Ouais, et puis un texte défilant ce qu'on appelle un screx vertical, c'était super long, quoi. Hein,
bah franchement... quoi, voilà, bah, c'est la marque de fabrique d'HK, c'est pour les biographies, ça.
Non, il n'y avait pas que pour les biographies, hein. Il y avait des textes sur l'introduction, sur la culture, etc. J'ai trouvé que c'était ignoblement long. Heureusement, l'avant-dernier Baby Cart commence par la même scène d'ouverture qu'un James Bond, et quand même, ça le fait, mais bon,
il ne faut pas entendre. Voilà, donc c'est
vrai, c'est vrai.
Coffret Baby Cart chez Wildside Video. On a aussi, alors rassurez-vous, c'est bientôt fini. On a le coffret qui s'appelle Le Cours des Grands, et c'est un coffret qui réunit en DVD les premiers courts-métrages de grands réalisateurs, enfin de futurs grands réalisateurs, qui sont donc Stephen Frears, on a du Paul Verhoeven, Roman Polanski, George Lucas, Terry Gilliam, Tony Scott, Robert Zemeckis, Emir Kusturica, Lars von Trier, Luc Besson et Jane Campion, qui sont réunis, dont les premiers courts-métrages sont réunis dans ce coffret DVD. Et donc c'est édité chez la 20th Century Fox. Alors dedans on a des analyses, des interviews pour comprendre d'où vient leur univers. Alors ça c'est, je pense que c'est plus pour les cinéphiles. Et je vais finir cette chronique DVD. Ah mais non, il y en a deux autres encore. Je vais finir ma chronique DVD par deux films. Enfin deux coffrets plutôt. C'est le premier, c'est Lost Highway de David Lynch, dont on pleurait déjà la première sortie DVD qui avait rien du tout dessus. Là c'est quand même une ultimate édition de DVD chez MK2. On a la bande annonce, le making of, une interview et une featurette. Alors c'est un film qui est retranscrit en haute définition pour ceux qui aiment les films de schizophrène et les boursins de Patricia Arquette en blonde en brune. En fait, tu en vois là.
Et c'est réaliste.
Voilà, c'est, il y a pas mal de cul dans ce film aussi, ce qui fait dire à un des deux flics qui est en plan qu'à un moment donné, ah putain, cet enculé, il voit plus de chatte qu'une lunette de chiottes. Ça m'avait fait beaucoup, beaucoup rire, en tout cas, à l'époque.
Ah, ça, humour pipi caca, ça!
Bah, ouais, voilà, ouais. Et je vais finir par un coffret consacré à Lars von Trier, c'est The Europe Trilogy. Avec ses premiers films qui, loin du dogme naturaliste qui a. Il a sa carrière maintenant.
Ou naturaliste à poil ?
Non, oui, naturiste aussi après. Pendant que Xavier répond au téléphone, on parlera de cette édition en 3 DVD qui regroupe The Element of Crime. C'est un film avec entièrement en filtre jaune, je pense que tu l'as vu du sport. Ouais. Hein. Et on a Europa qui vraiment, moi j'aime beaucoup.
Europa, ouais, c'est le meilleur. Hein,
ouais, façon, avec Jean-Marc Barr, ouais. Avec cette introduction avec la voix de Max von Sydow qui essaie de hypnotiser le spectateur sur cette voix ferrée en noir et blanc, qui est vraiment très bien. Et on a aussi Epidemic, et c'est édité chez Opening, et on a des commentaires audio, des making-of et des nombreuses anecdotes des collaborateurs de Lars von Trier qui reviennent sur la personnalité très ambiguë du réalisateur danois. Et voilà, j'ai fini.
C'est pas trop tôt. Du sport. Il est 13h15 sur la poubelle des radios.
Yo, c'est bien parti, les gars. Allez, on va commencer par une nécrologie, comme pratiquement chaque samedi en ce moment. Je crois que c'est le 4e samedi que je commence par une nécrologie.
C'est pas là, rigolo, attends, je fous
la
merde.
C'est pas rigolo, mais connaissant le personnage, je suis sûr que depuis le 9 décembre, c'est-à-dire il y a une semaine, hein, 9 décembre, ouais, il doit bien rigoler lui aussi en nous regardant de là-haut. Il s'agit de Richard Pryor.
C'est qui?
Alors, c'est qui? ils me refont le même sketch qu'ils m'ont fait avant là, où je leur dis bon, tu commences par quoi et tout. Je dis Richard Pryor est mort. Et le mec, qui ça? C'est qui ce mec et tout? Alors, de son vrai nom, alors, on comprend d'ailleurs de son...
Il casse les sketchs!
de son vrai nom, c'est pour ça que c'est bien qu'il est raccourci, parce que sinon on s'en souviendrait pas, quoi. Il s'appelle Richard Franklin Lennox Thomas Pryor. Free, the third. Si vous préférez.
Ah mince, j'ai loupé les deux premiers.
Né dans une petite ville de l'Illinois, en pleine Deuxième Guerre mondiale, le 1er décembre 1940. Putain, il me semble que c'est la même date de naissance, ou pas loin que John Lennon, quoi. Bon, ceci mis à part, Richard Pryor, eh bien, il commence sur les planches assez jeune. Vu que dès l'âge de 7 ans, il commence déjà à jouer un petit peu de la batterie dans un groupe de gosses. C'est un black, je préfère. Hein. Je précise tout de suite. Hein, parce
je
que
préfère
bon, Et oh il commence à monter sur les planches dès son adolescence pour se lancer dans le difficile exercice du cabaret. Ceci dans les années 60, c'est-à-dire la période Lenny Bruce, la période de... La fin des showmen qu'on a connus Made in Hollywood, à savoir les Dean Martin, Jerry Lewis, Sammy Davis, qui sera d'ailleurs son modèle, et c'est normal parce que Sammy Davis est black aussi. Donc il n'y avait que pratiquement que ça comme repère au départ. Richard Pryor a commencé à faire parler de lui parce que, eh bien, outre son travail dans les cabarets, c'est-à-dire bon, il touchait un monde, on va le dire, relativement confidentiel, mais néanmoins acquis, on va dire, hein, un public relativement acquis. Il touchait un petit peu à tout. Il a fait de l'écriture pour le cinéma, il a fait de l'écriture pour la télé. Bien sûr, quand il a commencé à être un petit peu connu, il a fait des apparitions dans les shows les plus connus de la télé américaine. C'était à l'instar de Coluche en France, hein, je veux dire. C'était un mec, il arrivait, claque, direct, tu savais... Tu savais que tu allais en prendre plein la gueule sans problème. Richard Pryor, genre grand blague, dégingandé, coiffure afro, une petite moustache comme ça. Enfin bon, bonne gueule, tranquille. Assez volage, on va dire. Marié 6 fois, dont 2 fois avec la même. Celle qu'il laisse veuve d'ailleurs, hein, Jennifer. La quatrième épouse qu'il a remariée en 2001. Il a eu 2 fils et 3 filles, dont une dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. Il s'agit de Rain Pryor, hein, qui a été actrice, qui est actrice et qui a joué dans une série de Sherilyn Fenn, série consacrée aux addictions en tout genre, on va dire, hein. Là, Sherilyn Fenn est alcoolique et tout, mais là, dans ce rôle, Rain Pryor est une héroïnomane, ce qu'elle a été vraiment dans la vraie vie, et dans la série d'ailleurs, elle crève à un moment donné, c'est assez boulant. Une série dans laquelle on voit également Roger Daltrey faire une apparition en tant que ex-rockstar des années 60 qui a réussi à vaincre sa dépendance et tout. Enfin, c'est assez rigolo, hein, c'est vraiment pas mal comme petite série. Ses apparitions au cinéma, c'est pratiquement tout et n'importe quoi, on peut dire. On parlait de Lost Highway, bah, il joue un petit rôle dans ce film. Il joue le rôle de Arnie dans Lost Highway. Revois un petit peu, tu verras, quoi.
Le patron du garage.
Le Black, hein, de toute façon, quoi. Il y en a pas 50. On l'a vu au cinéma également dans Lady Sings the Blues, mais ça remonte quand même au début des années 70. 71 ou 72, je crois, hein, où il jouait le rôle d'un pianiste, hein, c'est le film composé pour et réalisé et pour spécialement Diana Ross, bien entendu. On l'a vu également dans Superman 3, on l'a vu dans le Muppet Movie, ça c'était le film, la première version où il était invité vedette du film. Ça c'était en 78 ou 79, c'est d'ailleurs là il est au top de sa popularité, parce qu'il faut dire que outre ses films dans lesquels il a paru et ses carrières à la télé, il a également été scénariste d'un film qui est vachement connu et qui est culte. Hein, enfin, moi, je suis fan de toute façon. Quoi. C'est pas le meilleur de Mel Brooks, mais c'est Blazing Saddles. Il a été co-scénariste de ce film. Le shérif est en prison, le shérif qui est black et tout. Bon, okay. Hein, et co-écrit donc avec Mel Brooks, Richard Pryor. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? On le voit également apparaître dans des séries télé. Bon, dans les apparitions télé, évidemment, hein, la plus ancienne dans les années 60, Toast of the Town. Puis dans les années 70, Flip Wilson Show. Et bien entendu, hein, c'est l'un des personnages qui a d'ailleurs indiqué la voie à suivre pour un jeune débutant du Saturday Night Live, hein, chaque fois qu'il venait comme invité dans le Saturday Night Live, y avait un petit black qui le regardait comme ça avec des petits yeux et tout. Ce petit black est devenu un des rois de la comédie black américaine dans les années 80.
Eddie Murphy.
Et il faut savoir qu'au début des années 80, Richard Pryor a eu un accident domestique, euphémisme doux pour parler de son accident, alors qu'il essayait d'inhaler de la coke, mais selon la technique du freebasing, c'est-à-dire une technique où on fait flamber la coque dans une espèce de bain et ensuite on renifle par-dessus. Mais enfin, il faut faire gaffe parce que ça peut prendre feu, la coque étant vachement inflammable. Ce qui est arrivé, il était brûlé jusqu'à 50% de son corps, et c'est arrivé en 80-82, et à l'époque, justement, se disputait. Il y avait des auditions qui se passaient pour le rôle d'une comédie qui allait devenir vachement célèbre et consacrer justement Eddie Murphy. Et bien, c'est de le film Un fauteuil pour deux, et c'était Richard Pryor au départ qui était pressenti pour jouer dans ce film à la place de Eddie Murphy en face de Dan Aykroyd. Donc il a loupé le coche, on peut dire un petit peu.
C'est vraiment le bon nom pour le film, pour cet incident.
Ouais, il a loupé cloche un petit peu, et il faut dire que dans les années 86, 85-86, bah, y a eu une mauvaise nouvelle qui est tombée en ce qui concerne sa santé. Il était atteint de sclérose en plaques. De la maladie dont il est décédé d'ailleurs, hein, très récemment. On l'a vu dans les séries également, il a fait une série, il a fait Les Mystères de l'Ouest, Wild Wild West, en 66. Il apparaît dans un épisode qui s'appelle The Night of the Eccentrics, et dans un épisode de Chicago Hope, une série médicale dont j'ai parlé, hein, qui est sortie en même temps que IAR et qui a jamais connu le même succès que IAR. C'est un petit peu con parce qu'elle est aussi bien, enfin elle est différente, quoi, sinon meilleure que l'autre. Chicago Hope en 95, il a d'ailleurs eu une nomination à un Emmy Award pour son rôle dans cette série Chicago Hope en 95. Voilà, c'était donc Richard Pryor décédé le 9 décembre dernier. Voilà, on a un petit peu rigolé, un petit peu plus quand même avec quelques petites séries. En particulier une série dont je vous ai pas parlé quand la première diffusion a eu lieu, c'est-à-dire tout début décembre là, et qui est diffusée sur 13e rue tous les mercredis à 20h50. Il s'agit d'une série canadienne qui s'appelle Regenesis. Et au fur et à mesure, d'abord Madame Colombo s'en est chargée, est tombée dessus et s'est dit putain ouais bon le truc ouais ça dépote un peu quoi. Elle a dit tiens tu devrais regarder et tout c'est pas mal. Et puis bon effectivement ouais il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose dans cette série qui raconte une histoire qu'on connaît maintenant. Hein. On a vu CSI, on connaît les labos, il y a également Preuve à l'appui, où ça se passe dans une morgue. Il y a également NIH, la série des mecs de la santé aux États-Unis qui vont combattre les épidémies.
La NIH, c'est une agence qui existe réellement, et c'est une agence qui est spécialisée dans les grandes épidémies.
C'est le ministère de la santé, en fait, oui, des États-Unis. Hein, ouais. Aux États-Unis, c'est comme le ministère de la santé chez nous en France, hein, c'est pareil. Quoi. Et là, bon, il s'agit d'une série canadienne, donc et il s'agit des histoires d'une équipe de biologistes qui sont dirigés par le professeur David Sandstrom, interprété par Peter Outerbridge, et le nom me dit quelque chose, franchement, ou alors ça doit être une nana qui s'appelle comme ça aussi, quoi. Enfin, le nom me dit quelque chose, et je ferai une recherche de toute façon, quoi. Dans son équipe, il y a également Conrad Pla, Maxime Roy, Sarah Strange, et les différents épisodes nous emmènent comme ça, mais enfin bon, avec une narration qui est assez spéciale, hein, qui est pas montée de la même manière que NIH ou CSI, c'est-à-dire bon bah il se passe un fait au début, il faut remonter à la source, il faut faire une enquête et tout, et puis il y a un dénouement. Là non, c'est un petit peu différent. La narration peut prendre plusieurs épisodes parce que différentes histoires parallèles ont lieu. Et c'est là que c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Ça parle de propagation de virus mortels, de clonage, de mutations génétiques. C'est vraiment top niveau hein, en ce qui concerne la science, les biotechnologies, le bioterrorisme. C'est tout récent de toute façon parce que là, on est en train de voir sur 13e rue la première saison. La deuxième saison est actuellement en tournage aux États-Unis, au Canada, à Toronto en particulier. Et donc, je vous propose... Je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil, hein, parce que bon, bah, des fois, il y a certains sujets qui peuvent être un petit peu assez pataux, tu vois, genre bien rentre dedans et tout, et là tu dis putain, qu'est-ce que je fais sur le mouchoir, enfin bon, ouais, bon, ça va quoi. Et d'autres, bon, bah, qui sont un petit peu plus légers, on va dire, mais enfin bon, ça pose quand même pas mal de questions, c'est assez intéressant quand même. Et puis bon, ça soulève plein de sujets qui sont d'actualité, hein, parce que bon, bah, des deux épisodes qui ont passé mercredi, le premier s'appelle le virus historique, c'est l'histoire d'une entreprise qui vend des poulets infectés, hein, et le deuxième s'appelle l'œil de la baleine, là aussi c'est une histoire un petit peu plus compliquée, c'est à voir donc, hein, c'est mercredi sur 13e rue à partir de 20h50, sinon... En ce qui concerne les séries, il y a que ça, hein, vraiment comme vraiment nouveauté et comme série inédite. Et sinon sur Canal Jimmy, pas mal de rediffusions, par exemple rediffusion d'une série très courte anglaise qui a fait 6 épisodes et puis a dégagé, mais par contre interprétée par le magistral Robson Green. C'est la série d'avocats qui s'appelle Trust et qui repasse donc ce soir, à partir de ce soir, à raison de 2 épisodes, ça fera 3 samedis, hein, de toute façon, ce soir à 20h45. Rediff encore sur Jimmy lundi d'un Prime Suspect, c'est-à-dire suspect numéro 1 avec Hélène Mirren. Mais là c'est du très vieux, hein, c'est parmi les premiers, hein, donc c'est à regarder avec le décalage. 1992 pour ce Prime Suspect en 2 parties, c'est-à-dire lundi prochain et lundi suivant après Noël, c'est l'affaire Howard, 1h50 quand même, réalisé par Chris Menaud. Sinon... Dans la série Les pilotes des séries Star Trek sur Canal Jimmy, mercredi prochain, c'est Star Trek Enterprise avec l'épisode en 2 parties, enfin deux épisodes, hein, l'histoire en 2 parties qui s'appelle en français En avant toute et en version originale ça doit être Warp One Engage. Yeah. Mercredi à 20h45. Sinon, on a également vendredi prochain, pour ceux qui auraient loupé ça, Abfab, la saison 5, Absolutely Fabulous. La saison 5, c'est-à-dire celle qui délire complètement, où t'as la fille qui revient avec un black.
Elle est pas avec un Italien,
Vent? Non, mais attends, après, elle est enceinte du black et tout, puis elle garde le gosse, et puis c'est sa mère qui garde le gosse. Enfin bon, c'est délire total. C'est pas franchement aussi maîtrisé et au point que dans les Abfab du début, quoi. Je veux dire, ou deuxième, troisième saison, vraiment, ils ont atteint leur rythme et puis ça marche à fond les manettes début jusqu'à la fin. C'est un petit peu inégal, mais enfin, ça reste Abfab, c'est-à-dire c'est du très haut de gamme quand même, hein, avec trois épisodes, donc vendredi prochain à 20h45 sur Canal G. Comment on parle de manga? Eh ben, moi je vais vous parler de manga Koshon. Alors là, bon, s'il vous plaît, si les enfants sont derrière la radio, on va parler de moins de 16 ans, une manga diffusée sur Europe 2 et qui est
Europe 2 qui est une 15
estampillée, hein. Moins 16, hein, c'est-à-dire bon, le plus chaud c'est au-dessus, c'est le porno, vraiment porno où tu vois tout, hein, c'est la croix là, tu vois quoi. C'est la, mais moins 18 quoi, mais là c'est moins 16, c'est déjà pas mal. C'est une série animée manga donc, hein, qui s'appelle Le Retour de la Blue Girl, et qui a l'air de s'appeler, parce que j'ai pas regardé en entier quand même parce que c'est un petit peu répétitif, qui doit s'appeler à mon avis Bible Black en version originale. Alors ça raconte une histoire très simple, hein, de toute façon, parce que c'est surtout prétexte à voir des scènes assez cochonnes quand même. Si attention, ça dépote quand même pas mal. Ça se passe dans un lycée, donc pas de problème, comme ça on a les habituels jeunes filles, hein, en costume, enfin c'est pas le costume, enfin vraiment les petites jupettes,
l'uniforme
et tout, tranquille, enfin c'est quand même un peu plus lâche, hein, je veux dire, les mecs sont pas tous habillés pareil, les nanas non plus, mais enfin bon, ok, elles ont tous des super gros nibards au silicone, enfin bon, c'est manga animé, mais enfin bon, vu la taille, tu te dis ok, y a pas de problème, de toute façon, et tout est prétexte pratiquement à des petites scènes, hein, que ce soit des scènes lesbiennes, des scènes masturbatoires ou des scènes à plusieurs, hommes-femmes, pas de problème, intromission d'engins divers. À noter que comme c'est un moins 16 et que c'est un manga, donc de toute façon, les parties génitales sont gommées, sont effacées, mais c'est quand
pixelisé.
Pixelisé. Enfin bon, c'est un flou, hein, quand devant, quand même, un grand carré.
Il faut voir les gestes que fait du sport à côté pour décrire.
Mais par contre, bon, ok, c'est quand même assez animé, hein, genre tu vois bien les seins qui ballottent et tout. Et la particularité, c'est que les nanas assez vite, quand elles arrivent à l'extase et tout, commencent à baver. La particularité donc de ce manga qui est diffusé soit mardi sur Europe 2, sur Europe 2 à partir de 22h30 pendant une heure, il y a deux épisodes donc d'une demi-heure chacun, soit le jeudi de minuit à 1h du mat.
Je dément toute responsabilité dans cette émission, quoi que ce soit. Je retrouve même plus la petite musique qui va avec.
C'est pas grave, hein, c'est fini de toute façon.
Oui, attends, parce qu'il y a encore de la série et là il y a encore de l'inédit. J'avais dit que c'était que Regenesis, mais c'est parce que j'avais pas tourné la feuille tout simplement. Avec un Colombo inédit, c'est Noël, alors TF1
nous offre Colombo
inédit. Ouais, c'est le dernier en date tourné, hein, de 2003 de Jeffrey Reiner. Colombo mène la danse, c'est sur TF1 jeudi, à la place de Moulin et de Lescaut et tout. C'est quand même bon, on gagne en qualité. On gagne en qualité, hein. Bon, enfin bon, le père Peter Falk qui commence à se faire vachement vieux, hein. Et on va voir s'il fait décaler dans ce dans cet épisode qui l'amène dans le monde des boîtes de nuit hollywoodiennes.
Ah oui. Et c'est qui le méchant alors?
Le méchant, ça devrait être Matthew Rice, à moins que ce soit Douglas Roberts. Et j'ai pas vérifié si c'était pas encore un petit frère de Eric et
Julia.
Et de Julia. Mais enfin bon, c'est probable, hein. De toute façon, il y a également Jennifer Sky, aïe, qu'on a vu dans Cléopatra 2025. Je sais pas si t'as vu cette série.
Non.
Cléopatra, où il y a trois, il y a que des nanas pratiquement. C'est excellent.
Cléopatra 2025. Ça, c'est du titre.
si. Il y a également Valérie Landsberg, hein, là, c'est bon, ben, c'est un peu plus vieux. Et qui interprète le rôle de Doris dans la série Fame. Donc, c'est Colombo, c'est jeudi prochain, et c'est con parce que c'est en concurrence avec une série inédite et qui est un petit peu une série documentaire, on va dire, genre de la série réalité, on va dire, parce que ça prend comme personnage principal un vrai personnage. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, il s'agit de Kirstie Alley, qui joue son propre rôle, donc, dans cette série qui s'appelle Fat Actress. Kirstie Alley, qu'on a vu dans Allô Maman, le bébé, je sais pas quoi, ouais. Là, hein, avec John Travolta, ouais. Qu'on a vu également d'une autre série où elle était pas mal, où elle jouait le rôle d'une patronne de Veronica's Closet, je crois, ça s'appelle, patronne d'une boîte de lingerie féminine, ok, qui était pas mal, hein, qui était une sitcom pas mal. Et là, qui joue donc son propre rôle, sachant que bon, bah, la nana, je vous en avais parlé quand je parlais des articles un petit peu graveleux du National Enquirer.
Ah oui, oui. Hein,
d'accord, où je on la souviens. Retrouvait plus souvent là-dedans que sur les écrans de télé ou de cinéma. Et là, parce que bon, bah, elle était hyper grosse et elle a décidé de jouer sur ce fait-là et de faire un feuilleton de son état, savoir putain je suis grosse, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout, comment je réagis par rapport à ça, est-ce que je vais maigrir, je maigris et tout. Et bon, ça donne l'occasion de rencontres au fur et à mesure des épisodes avec les vrais personnages, à savoir John Travolta qui a un vieux pote à elle, scientologue comme elle d'ailleurs, hein. Il y aura également Kid Rock, Gwen Stefani, Kelly Preston et beaucoup d'autres comme ça.
Gwen Stefani, elle est grosse?
Non. Ah bon, elle va certainement donner des conseils à Kirstie Alley pour avoir la même ligne que Gwen Stefani, tout simplement. Ça s'appelle donc Fat Actress et c'est diffusé par Canal Jimmy. Excusez-moi, jeudi prochain à partir de 20h45 avec 3 épisodes à la suite ou 4 épisodes à la suite. Hein. J'en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'il y avait le pilote, mais il y avait également au départ le film. À long moment, j'ai sauvé le bébé, je sais pas quoi là. Puis bon, ça va bien une fois quoi. Enfin, le générique du début est pas mal, faut dire que c'est pas mal. Mais à part ça, bon, ok. On est dans le monde des séries et là, je vais vous parler d'un petit mec. Non, il est pas si petit que ça, hein, vu qu'il fait 1m74 dans la série. Tu vois sa gueule, mais tu sais jamais qui c'est.
Tu sais jamais comment il s'appelle.
Voilà. Il s'appelle Leland Orser. Des fois, il apparaît au générique sous le nom, sous le diminutif Lee Orser.
C'est pas Matthew Stone.
C'est, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Lee Orser. Et c'est, l'actuel mari de Jan Triplehorn. Tu vois qui c'est, Jan Triplehorn?
Oui.
C'est une vraie blonde.
C'est la brune. Ah, c'est la psy de Basic Instinct.
Ok. Il est un petit peu plus jeune que moi. Il est né en 60 à San Francisco. Et très vite, il a commencé à faire parler de lui en tant qu'acteur. Non, pas très vite, parce qu'on commence à parler de lui surtout dans le début des années 90, avec ses apparitions dans de nombreuses séries. Mais dans le top, on va dire, dans le Gotha, il avait déjà fait quelques petites apparitions comme ça, mais de personnages vraiment secondaires, dans le début des années 80, dans Charlie's Angels par exemple, des petites séries un petit peu réjouissantes, mais sans plus. Mais dans le début des années 90, il commence à se spécialiser dans le genre de personnage qui va le rendre justement un petit peu fameux, hein, un petit peu typique, à savoir les psychotiques un petit peu bien dérangés, vraiment... fondu du ciboulot quoi, à la masse, azimuté, tu vois, vraiment à dégager quoi. Et c'est ce qui va le rendre un petit peu fameux pour cela, dans des séries aussi diverses que X-Files, NYPD Blue, plusieurs épisodes bien sûr, Brooklyn South, bon, des petits intermèdes comme Dr. Quinn, femme médecin, pour rigoler, mais enfin bon, là où il commence à devenir vraiment un petit peu culte, hein, c'est ses participations dans pratiquement toutes les séries dérivées Star Trek, Voyager, Enterprise, Deep Space Nine, dans Law and Order, dans CSI, on le voit également. Et également dans une série instillée par des producteurs aussi inventifs que Ron Howard et Brian Grazer, mais surtout un réalisateur et un instillateur qui est un réalisateur de films, ex-acteur, qui s'appelle Peter Berg, qui avait fait cette excellente série qui s'appelait Wonderland, hein, dans le milieu psychiatrique, dans lequel, dans les deux premiers épisodes, tu vois apparaître Leland Orser, qui est Wendell Rickles, qui commence à dégommer tout le monde dans la foule, dans une rue de New York, ensuite plante une aiguille, quand il arrive aux urgences, il arrive à planter une aiguille dans la cuisse de Michelle Forbes, qui est enceinte, alors bon, le gros bordel, tu vois, enfin, et puis bon, et il raconte n'importe quoi, il est barré dans un délire mystique, qui réunit la mythologie grecque, la mythologie indienne, enfin, c'est tout, hein, enfin, c'est assez convaincant, de toute façon, hein. Il est assez remarquable, et dans un rôle un petit peu plus consensuel, on va dire, on a pu le voir très récemment à la télé française, et tous les dimanches soirs, en plus, mon gars, dans le rôle du docteur Lucien Dubenko dans la série Urgence, celui qui remplace le chirurgien qui remplace Romano, tu sais, le mec qui se fait couper le bras par un hélicoptère.
Oui.
Et puis donc au bout d'un moment, il faut le remplacer. Et puis dans la saison 11, je crois que c'est la saison 11 qu'on a vu de Urgence il y a pas si longtemps que ça sur IA, en fait, tu le vois apparaître dans un rôle, bon, là, chirurgien un petit peu azimuté, hein, comme tous les chirs, mais bon, ben un petit peu plus normal que dans ses apparitions dans ses nombreuses séries. Il a également tourné pas mal des seconds rôles dans des films, et quand je vais te citer les films, tu vas dire ouais, attends, ouais, oh, ouais. Et Independence Day, Escape, ouais, oh. Escape from LA, le film de Carpenter, il joue le rôle de Test Tube, Saving Private Ryan, Very Bad Things, Pearl Harbor, Daredevil, Alien Resurrection, Bone Collector. Ça va, quoi, ça en jette quand même pas mal pour ce monsieur. Il s'appelle donc Leland Orser. Donc, la prochaine fois, si vous voulez un petit générique, repérez bien les noms génériques comme ça, les petits guests, parce que vraiment, c'est un mec qui est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. On va terminer avec une petite sélection de films. Alors, que j'ai intitulé Film pour la famille avec des animaux.
Oh non!
Et puis à la fin, j'ai rajouté surtout avec des chiens.
Du sport, t'as une heure. Tu es sûr que tu veux pas commencer plus tôt, là, 13h38.
Ah, si, parce que les enfants sont en vacances, il faut les écouter l'après-midi, donc on va en déguster du film pour les enfants et pour toute la famille tous les après-midi pratiquement. C'est surtout le terrain de chasse réservé, on va dire, hein, des gros networks, à savoir TF1 et France 2, hein, de toute façon. Ça commence lundi avec France 2 qui propose à 15h40 Rex.
Ah oui, c'est le tyrannosaure avec Whoopi Goldberg, non?
C'est un chien.
Ah, c'est un chien. Veuillez excuser du sport, il est en pleine crise de fou rire là.
Respire.
Rex.
Respire, il aurait pu s'appeler Lassie ou je sais pas. Je vous jure. Qui manque d'imagination, mais en tout cas ça marche derrière. Oui, du sport ne tient plus. On va passer direct au générique de fin, non? Ça fait bien un an et demi qu'on n'a pas eu de fou rire comme ça en plateau, et je peux vous dire, c'est dur d'essayer de rester sérieux pour qu'il garde. Non, ne ris pas, parce que
non,
sinon
non,
ça continue.
Non, en fait, du sport, il avait parlé d'une série une fois, c'était une Otari.
et qui s'appelait Rex.
Non, non. Bon, le film s'appelle Rex, c'est un téléfilm allemand, pas américain, d'un mec qu'on connaît mieux maintenant, hein, comme cinéaste. Il s'agit de Oliver Hirschbiegel, puisque c'est lui qui a fait La Chute. Le film jours de, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, La Chute.
Oui, La Chute, ouais.
Les jours de Hitler, voilà. Et donc, il avait réalisé, ce film, hein, consacré à Rex, le chien. Et c'est suivi par un autre chien qu'on connaît mieux, hein, c'est normal, c'est,
Beethoven.
Le chien Scooby-Doo.
Ah, non.
Non, Scooby-Doo, c'est sur France 2 à 17h25. Beethoven, tu en parles justement. Eh bien, c'est TF1 qui s'en charge, mon gars. Avec Beethoven 1 diffusé lundi prochain à 17h25 et Beethoven 2 diffusé mardi prochain à 17h30.
À mon tour, Lassie.
Alors que mardi, en pratiquement en même temps, hein, eh bien, sur France 2, on aura Einstein, le chien savant.
Oh là. Oh
un film de 98 de Craig Shapiro avec Tim Gottschalk et Priscilla Presley. Ah. Mercredi, bien, à 16h05 sur TF1, Hubert, son Altesse Sérénissime, de 99 de Philippe Spick.
Non mais là il tient plus, il y arrivera même pas.
Alors Hubert,
du sport, arrête de rire, pense que TPS et Canal 7 fusionnent.
Avec John Neville, avec James Doohan et Courtney Draper, en fait, l'histoire d'un chien qui hérite d'une fortune et d'un titre, et donc il se fait installer.
Avec des soubrettes pour mettre son nez.
Voilà, le même genre un petit peu. Ça, c'est mercredi sur TF1 à 16h05, alors que 25 minutes plus tôt sur France 2 aura commencé par un chien. Un ours.
Ah non,
un ourson va... nommé Winnie. Et ça, il s'agit pas du Winnie de Disney. En fait, il s'agit de la vraie histoire qui a inspiré justement le Winnie de Disney. L'histoire d'un infirmier canadien qui recueille un petit ourson C'est un film relativement récent, 2004, hein, de canadien, donc de John Kent Harrison avec Jill Bellows, entre autres, dans ce film qui passe mercredi prochain sur France 2. Et ça termine avec encore un petit dernier, mais enfin moi je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est vendredi prochain sur TF1.
Si, non, là c'est sans vanne.
Là c'est du classique à 17h25, TF1 qui vous propose Chicken Run.
Saphir et des poulets, ça.
Surtout avec des chiens. C'est pour ça. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année. Et de joyeuses fêtes, les gars.
Pareil pour toi.
Oui, bah, surtout qu'on va, arrêter l'émission pendant un certain temps. On se retrouve donc le 7 juillet, promis juré. On ne fera pas.
Le 7 janvier.
Donc on n'arrête pas définitivement le podcast, mais en tout cas on l'arrête symboliquement. À propos donc de la loi DAD-VSI, on donne tous les renseignements sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net ou aller directement signer et prendre des renseignements et ensuite signer, hein, on n'est pas des moutons, ucd.info pour avoir plus d'informations. Supplément week-end se termine ici avec un superbe débordement de 43 minutes, ce qui n'est pas le record absolu, et Thomas a le procès verbal de l'émission, je suppose. Non, oui. Ah bon, super, vas-y.
À part le fait d'avoir un surplus de matière à chroniquer qui était assez impressionnante, on a eu Xavier qui s'est perdu dans les chroniques, il a voulu qu'on en fasse deux fois la même chronique, du sport qui est parti dans un fou rire suite à sa chronique sur les chiens avec Winnie, Hubert, Rex et consorts, et tu viens de le dire, un dépassement assez phénoménal de 43 minutes.
Homérique, hein, on s'en doutait, mais on a fait un pari, essayer de ne pas dépasser 14h à 15h en mode progression, 16h Big Bang. Non mais attends, là tu me caches le tableau, enfoiré. 17h Vie d'ordure, 18h Happy, 19h pardon, Happy Hour, 20h Last Hétéro Experience, 21h30 Liquid Sky, et de 23h jusqu'à 3h voire 5h du matin Breakbeat Experience. J'espère que Thomas en aura fini à essayer de me cacher le tableau. Donc on se dit ciao, rendez-vous la semaine prochaine.
Joyeuses fêtes à tous.
Éclatez-vous, ciao.
Ciao.
Il est 13h45 pratiquement, et c'est toujours les 89 points avec ça c'est du sport, bon, jusqu'à 15h. On va parler vite fait en un quart d'heure, hein, du tirage des coupes européennes qui a eu lieu hier en ce qui concerne le football. Il y a également un petit peu de boxe, et on reviendra sur différents événements. Et beaucoup de consensuel, quoi, tu vois. Jusqu'à 14h du moins. Mais tu sais bien qu'une bonne émission de Ça c'est du sport, c'est pas une bonne émission s'il n'y a pas de dopage, avec d'une part une décision du tribunal arbitral du sport en ce qui concerne Tim Montgomery, c'est-à-dire l'ex-recordman du 100 mètres, qui a été suspendu 2 ans par le tribunal arbitral, et donc son record du monde est à dégager. Voilà. De toute façon, c'est plus lui qui le détenait, hein, puisque actuellement, lui, il avait fait 9,78. Nea Safa Powell, depuis le Jamaïcain, Jamaïcain me semble, a fait mieux avec 9,77. Et on a également Maurice Green sous la barre des 9,80 avec 9,79. Tim Montgomery donc rattrapé par le scandale Balco. Ah, il y a du beau monde. Il est l'ex de Marion Jones, ça y est, ils ont cassé. Et c'est pas le premier athlète, les autres athlètes suspendus, Michelle Collins, Kelly White, Chris Gayne, Dwayne Chambers, Regina Jacobs, Kevin Toth, Alvin Harrison et Calvin Harrison. Et ouais, ça en fait du monde. Patrick Arnold, le chimiste qui avait synthétisé toutes ces nouvelles molécules, la THG, eh bien, était arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, histoire de le faire collaborer avec la justice, comme ils disent. Hein. C'est ce qu'a fait Victor Conte, le laboratoire du fameux laboratoire Balco, le patron, qui a collaboré. Donc il a eu une remise de peine, enfin un truc incroyable, genre... 2 mois de liberté surveillée, en résidence surveillée, et $10,000 d'amende. On n'était pas loin de friser l'arnaque, mais c'est en Italie qu'on frise l'arnaque la plus complète, avec la Juventus qui s'est vue blanchir cette semaine par la cour d'appel de Turin. En effet, une histoire de dopage qui remonte aux années Zidane et Deschamps. Les années 90, milieu des années 90, dans lequel le directeur administratif et le médecin de la Juventus étaient poursuivis. Dans l'armoire à pharmacie de la Juventus, il y avait plus de 280 produits pharmaceutiques, dont certains réservés au milieu hospitalier. Et on dit que les sportifs, les footballeurs sont des sportifs en bonne santé de haut niveau. C'est pas vrai, les gars. En fait, ils ont été blanchis, alors que dans le jugement en première instance, ils avaient pris plus d'un an de prison. Enfin bon, un verdict assez juste, en fait, hein, en vue de la gravité des fautes commises. Eh bien, ça a été remis en question. Bah, merci Silvio. Ce n'est que partie remise.
Chapeau, tata yo-yo, oh.
Radio Éphémère toujours, et comme il me reste même pas 10 minutes hein, pour vous parler de sport, on va faire un petit peu dans le léger avec l'équipe magazine, c'est le supplément qui est donné, enfin vendu avec l'équipe, hein, et puis tu l'achètes, si tu le veux pas, tu es obligé de le prendre quand même, et tu payes quand même ton équipe plus cher, quoi, donc t'as pas le choix, tu le prends, hein. Mais il faut dire que c'est quand même de la bonne qualité généralement, hein, c'est mieux que dans l'équipe quotidienne de toute façon, hein, et là c'est le bilan 2005, alors bon bah ok, c'est le bilan habituel, à la limite on s'en tape un petit peu, et il y a surtout le top 30 hein, des sportifs français, les préférés des Français. Un sondage réalisé par RMC et l'équipe avec bien sûr Zizou en tête.
Ouais.
Alors bon là pour le premier commentaire hein, c'est que je veux dire tu peux être confronté, c'est-à-dire tu peux avoir une image qui est pas totalement positive quoi, c'est-à-dire du crash à la gueule d'un arbitre ou tu es quand même mêlé dans une histoire de dopage, je viens d'en parler, l'histoire de la Juventus avec Zidane en tête hein, il y a pas de problème. Eh ben tu es quand même vachement aimé des Français hein, tu peux transgresser, il y a pas de problème, hein, ça marche quand même. En seconde position, Amélie Mauresmo. Bon, ça c'est surtout dû. Alors, il faut aussi dire que c'est pas forcément hein, en vue. Un classement au seul vu des résultats sportifs, hein, c'est également la mémère qui aime bien. Oh, il a une bonne tête celui-là et tout quoi. Je vais arrêter. Enfin, c'est vraiment représentatif de l'ensemble hein, de ce que peuvent dégager ces sportifs. Et donc forcément, ceux qui ont le plus d'exposition, eh ben occupent plus les premières pages, les premiers numéros de ce top 30. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple, ça c'est une injustice quand même vachement flagrante, hein, Brahim Asloum en 26e position, alors que Mayar Mounchipour figure en 45e position. Maillard est vraiment champion du monde alors que Brahim a failli le devenir. Il aura encore l'occasion, mais enfin, il faut encore qu'il apprenne un petit peu. Il est jeune, donc il a encore le temps. Hein, quand on voit qu'un mec qui gagne qui a deux bagues NBA au doigt, et ben, est derrière un fanfaron comme Olivier de Kersauzon, ça fait quand même des fois un petit peu mal, tu vois. Alors que Kersauzon, au niveau sport, ça fait des lustres quand même, hein, il a pas trop fait grand chose, tu vois. Enfin, pas des lustres, ça doit faire 2 ans ou 3 ans, mais la dernière fois ça s'est soldé par grand chose. Bon bref, voilà, c'est juste pour dire. Alors Zidane, Amélie Mauresmo en seconde position, et la grosse révélation, et bon, enfin c'est pas une révélation vu que ça fait quand même un petit peu plus d'une année qu'on en parle, hein. C'est surtout dû, l'écosion est due surtout aux Jeux Olympiques d'Athènes. C'est Laure Manaudou, hein, qui est en 3e position et qui vient encore la semaine dernière, hein, lors des championnats d'Europe, d'exploser un record du monde du 400 mètres, hein, 3 secondes dans la gueule. Tu vois, c'est
ah ouais,
quand même, ouais, c'est quand même vachement fort, quoi, quand même, ce qui fait qu'elle a les 3 records du monde. Elle détient les 3 records du monde en petit bassin des 3 plus grandes distances, hein, 400, 800 et 1500 mètres, et elle a également ramené 3 médailles de ces championnats d'Europe. Enfin ça, bon, bah, ok, hein, laisse tomber, c'est normal, quoi. Thierry Henry en 4e position et Jeannie Longo, c'est pour dire que bon, bah, ok, wow. Si Jeannie Longo est encore active sportivement, non, elle continue à faire des courses, hein, mais enfin bon, carrément, quoi. Bon, elle cherche toujours un peu la merde, de toute façon. Elle n'a pas voulu participer au tour cette année, enfin ce qu'il en restait, parce qu'elle disait, ouais, les autres veulent pas de moi et tout, alors je viens pas, enfin bon, des conneries, quoi, tu vois. Barthez est en 6e position. Alors comme quoi, tu peux te faire suspendre, tu peux cracher sur un arbitre et tout, il n'y a pas de problème, hein, t'es quand même un mec bien préféré des Français, hein, alors que le Bicente Lizarazu en gendre idéal est quand même loin derrière, à la 11e position. Marcel Desailly, hein, qu'on n'a pas vu sportivement depuis pas mal d'années, quoi, faut dire, hein. Ou alors il fallait posséder les chaînes de Dubaï et de Qatar, et pas que les chaînes d'information, mais également les chaînes sportives, pour savoir ce qu'il faisait, foutait. Marcel Desailly, 15e position, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Et au niveau du rugby, si Christophe Dominici est en top position, quoi, c'est un petit peu logique, mais c'est un petit peu moins logique que Michalak se retrouve seulement en 3e position des rugbymen, derrière Thomas Castagnède, qu'il faut quand même vachement connaître le rugby anglais, que tu suis tous les matchs de la rugby league sur TPS ou je sais pas quoi, sinon tu sais même pas qu'il joue encore au rugby, le petit Thomas. Si, bah oui, dernièrement on lui a fait quelques apparitions en équipe de France, parce que bon, il faut bien tester tout le monde, hein, n'est-ce pas monsieur Laporte, hein. Voilà en ce qui concerne, et Pelou c'est quand même à la 4e ouais, position, hein, donc Stade Toulousain quand même, ça va, quoi, à part Dominici, hein, Stade Toulousain quand même, quoi, tu vois, tout ça pour dire ben voilà, c'était truc un petit peu léger. Alors maintenant, comme j'ai Thomas qui est derrière moi, juste là derrière l'épaule, et qui mate avec envie l'équipe magazine, et qu'il est aussi un petit peu féru de football, faut dire, mais enfin bon, il est... Faut dire qu'il est supporter d'une mauvaise équipe.
Bon,
alors, ça
va,
n'avance
je me casse,
pas les choses.
On ne parlera pas de cette équipe aujourd'hui. Les tirages au sort des 8e et 16e de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de l'UEFA, ben, ça a été fait hier avec pour la Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, c'est ça qui est vachement bien avec la nouvelle formule après les poules et tout, c'est à partir des 8e de finale. C'est que dès les 8e de finale, t'es sûr d'avoir des chocs de l'enfer qui tuent de la mort, que c'est des finales en puissance, tu vois quoi. Sans problème. Avec Real Madrid, Arsenal, Bayern Munich face à AC Milan, Benfica face à Liverpool, alors ça remonte à vachement loin quand même, Chelsea face à Barcelone, alors là ils ont des choses à se dire depuis l'année dernière je crois, hein, les deux équipes, Ajax contre l'Inter de Milan, Werder de Brême contre Juventus de Turin, et il y en a deux qui peuvent s'estimer, mais alors Verni, ils ont le cul bordé de nouilles, mais alors le cul bordé de nouilles, que je te dis que ça, c'est les Glasgow Rangers qui reçoivent le Villarreal, donc hein, ces deux équipes qui sont pas vraiment des cadors hein, en ce qui concerne les places fortes européennes, mais qui se retrouveront l'une des deux automatiquement quart de finale. Et là déjà, bah, ça commence à brasser un petit peu lourd hein, les pépettes hein, que tu gagnes hein, quand t'es en quart de finale, je peux te le dire mon gars. Là ça commence à devenir vachement intéressant, donc j'ai oublié de parler de l'équipe française ben, qui retrouvera une équipe qui l'a éliminée voilà, l'an dernier. Le consensus va être le même que pour le match Chelsea-FC Barcelone. À noter quand même que l'avantage ce sera match retour pour Barcelone hein, parce que ça se joue en match aller-retour donc ben quand même un petit avantage pour l'FC Barcelone de recevoir en match retour alors que cette année c'était le contraire hein, donc c'était pas top top quoi tu vois. En Coupe de l'UEFA donc 16e de finale avec également match aller match retour et ben c'est quand même pas mal pour 4 clubs français sur 5 qui auront l'avantage de enfin l'avantage supposé de recevoir lors du match retour alors que Lille eh bien recevra le Shakhtar Donetsk que l'équipe ukrainienne tout en haut du tableau. Et alors, si on va très loin dans la prospective en imaginant que deux clubs français peuvent parvenir en finale de cette Coupe de l'UEFA, eh bien, on peut imaginer un derby nordiste en finale avec Lille tout en haut du tableau et Lens pratiquement tout en bas du tableau, tu vois, hein, qui devra éliminer Marseille pour parvenir en quart de finale, mais qui sera après, ben, aura la voie libre pour aller jusqu'en finale sans problème. Monaco a hérité dans la première partie du tableau du FC Bâle, hein, une équipe qui était dans la Ligue des Champions, qui était reversée dans la Coupe de l'UEFA à ce stade de la compétition. C'est un petit peu mieux pour Strasbourg qui reçoit lors du match retour les Bulgares du Litex Lovech. On a également une petite confrontation entre le VfB Stuttgart et Middlesbrough qui sera assez intéressante hein, du côté des rencontres entre clubs étrangers. Betis Séville face à AZ Alkmaar aussi, ou Schalke 04 face à l'Espagnol de Barcelone. Marseille, pratiquement tout en bas du tableau, eh bien recevra lors du match retour une équipe de Bolton qui en ce moment fonctionne bien dans le championnat anglais. Elle doit être à la 5e ou à la 6e place, donc méfiance quand même. Et tout en bas du tableau pratiquement, hein, Udinese, l'équipe italienne recevra l'équipe de Lens. Voilà, les 16e de finale, eh bien, les matchs aller auront lieu les mercredis et jeudi 15 et 16 février prochain, le retour ayant lieu la semaine suivante. Je suis content de passer un bon soir. Oh, voilà. Il est presque déjà 14h, donc vite fait de la boxe avec ce soir. Et ça se passe pas aux États-Unis. Un championnat WBA des lourds à Berlin. Ah. Il va opposer donc le tenant du titre WBA des lourds. Une catégorie hein, qui depuis eh ben, la retraite de Lennox Lewis ou voire Vitaly Klitschko, mais encore que hein, je connais pas vraiment de véritables patrons hein, dans le monde des lourds, hein, des patrons comme il y a pu avoir Tyson dans le temps, Evander Holyfield, qui réunifiait le titre et qu'il gardait après plusieurs combats. Non. Tu actuellement, il y a plusieurs champions dans le monde des lourds. Hein, Chris Bird, tenant IBF, Asim Rahman, tenant WBC, Lamont Brewster, WBO, et John Ruiz, donc, en catégorie WBA. John Ruiz, 33 ans, portoricain, 1m88, 107 kg, 41 victoires, dont 28 avant la limite, 1 nul, 5 défaites et un no contest. Il sera opposé à un des boxeurs les plus grands en taille, qu'est connu bien l'histoire de la boxe, l'histoire des lourds. Hein. Avec le challenger, le russe invaincu Nikolaï Valouev, 32 ans, 2m12, 147 kg, 42 victoires, dont 31 avant la limite et un no contest. Ça se passe ce soir à Berlin. Et ce sera visible à la télé sur TPS Star à partir de 22h25. Cet après-midi, il y a du rugby hein, avec la Coupe d'Europe, Trévise, Biarritz et sur Sport Plus. Bah, tout de suite, là maintenant à 14h. Si vous aimez les sports un peu plus calmes, plus qui détendent, qui déstressent à fond les manettes, je vous propose le curling avec Championnat d'Europe, la finale homme à Garmisch-Partenkirchen sur Eurosport à 15h30. Je te jure, c'est vachement bien le curling à regarder. Du rugby encore avec toujours la Coupe d'Europe, hein, Bourgoin face à Leinster sur France 2 à 16h. Du foot sur Canal, c'est le match de Canal à partir de 16h45, coup d'envoi à 17h, AC Ajaccio contre Paris Saint-Germain. Et alors à propos du Paris Saint-Germain, il y a une polémique cette semaine, depuis le début de la semaine dans l'équipe, surtout à propos de la place de l'entraîneur, hein, Laurent Fournier qui devrait valser enfin vite fait, alors que bon le PSG se porte vraiment pas si mal que ça au niveau du championnat. Alors, on comprend pas trop, là, mais enfin bon, laisse tomber, hein. Ouais. Et comme quoi, il joue sa place là lors de ce match AC Ajaccio PSG, et ça fait revenir quelque chose. À savoir que contrairement à l'année dernière où il y avait eu record de valse d'entraîneurs dans les trois divisions confondues, je crois qu'il y avait 35 entraîneurs qui avaient valsé dans les trois divisions, il y en avait 10 pour la, ou un peu plus de 10 pour la seule Ligue 1. Et ben, depuis le début de la saison, il n'y a pas encore eu un entraîneur licencié en Ligue 1. Alors que chez nos voisins, les gars, je ne vous parle que de ça. Regardez du côté du Real. Il y a du rugby encore donc à la télé avec sur Sport Plus à 18h un match de Coupe d'Europe mais qui concerne un duel franco-français, le Stade français face à Clermont. On a également du handball à 20h15 sur Eurosport avec le championnat de France. Une rencontre qui oppose Montpellier à Chambéry, soit les deux équipes Cador qui se disputent toujours la tête du championnat, bien que ce soit en ce moment plus à l'avantage de Montpellier. Et donc le match, le combat de boxe, le championnat WBA des lourds, ce soir 22h25 sur TPS Star.
Ma mal se tire, chaque fois c'est pire, c'est toujours mal fait. Faudrait me concentrer.